Vous écoutez Radio Courtoisie. Il est 18h.
La radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 octobre 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 30, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir. Ça va-t-il ?
Ça va-t-il ? Ça va-t-il ? Ça va.
Bon, messieurs.
Si ça va.
Bon.
Eh bien, si ça va, ça va.
De droite à gauche, on va citer Victoria en dernier pour une fois.
Ah.
De droite à gauche, Goffman, Patrick.
Présent.
Chériguez de Almeta, Marquis.
Présent.
Très bien. Et monsieur Lagartempe, Laurent.
Présent.
C'est bien. Ouais, on fait vite à fabriquer un petit commando comme ça. C'est... Alors, je vais recevoir donc Laurent Lagartempe parce qu'il a écrit un document, un livre, un essai, je ne sais pas comment il faut dire, mais passionnant. C'est la première fois que le sujet est pris sous cet angle. Ça s'appelle Le Petit Guide du Coran. Donc, si vous voulez être au Coran, c'était bien, il ne fallait pas la rater celle-là.
Non.
Ah, ben, je l'ai faite, c'est bien. Il faut lire ce livre. Le Marquis va dire du mal.
Qui
bon, je vous prends qui vous voulez, mais vous êtes avant ça, de toute façon. Vous allez dire du mal.
Vous nous prouverez, Marquis, que vous n'êtes plus de ceux que Stéphane Bern.
Oh, très très bonne. On a des brillants, Goffman. Puis Goffman fera des mots comme ça. Ouais. Bien. Mais d'abord, je voudrais quand même. Vous savez, c'est la première fois que je vois ça. Le quotidien le plus drôle de la journée, c'est Le Monde. La une du Monde, c'est prodigieux. Mais enfin, il a été aidé parce qu'il a comme vedette américaine, ou même, non pas vedette américaine, vedette française, Sarkozy.
Oh.
Alors, voilà le titre du Monde. Je vous le dis, si vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous, il pleut. Corse, de point, Sarkozy part en guerre contre le système mafieux. Il y a combien de temps qu'il est ministre de l'Intérieur, Sarkozy ?
2 ans. Ouais.
Déjà 2 ans ?
Ouais, non,
à mon avis, 2 ans, ça suffit.
Mais un ministre naïf pendant 2 ans, ah. Déclare-t-il.
Alors voilà, oui, il faut parler dans le micro, mon cher Marquis. Depuis 76 ans que vous faites de la radio à Courtoisie, vous devriez quand même le savoir. Donc Sarkozy part en guerre contre le système mafieux. Marquis, il a plus vite compris qu'il y avait une mafia en Corse que vous n'avez compris qu'un micro sert à parler. Je vous fais remarquer, il a été plus rapide.
Et moi j'ai peur que ça soit une matraque, ça ressemble. Je m'éloigne.
Alors, donc c'est un entretien avec le ministre de l'Intérieur qui annonce un changement de sa politique dans l'île. Donc ça fait un peu, il change de politique tous les 3 mois, hein, avec l'île, enfin la Corse. Et il dit, j'ai sous-estimé l'implantation du système mafieux. Et deuxièmement, il dit... J'ai été naïf d'avoir cru pouvoir mener une discussion loyale avant sa neutralisation. Alors, je trouve ces réflexions extrêmement intéressantes, parce que moi, qui ne suis pas ministre de l'Intérieur, je suis un petit journaliste sans beaucoup de talent ni beaucoup d'informations, il y a 30 ans, il y a 30 ans que je dis et que je sais que toute l'histoire corse, toute l'histoire de la prétendue, enfin des prétendus mouvements autonomistes ou indépendantistes corses est uniquement une affaire mafieuse. Et qui n'est pas une affaire mafieuse typiquement corse d'ailleurs. C'est une affaire mafieuse montée parce que les Corses appellent Isardi, les Sardes. Mais je ne vous dirai pas ce que ça veut dire parce que ça me conduirait directement en prison sans passer par la case départ. Et j'ai vu de mes propres yeux il y a plus de 20 ans... un résumé du plan qui avait été établi. C'était d'ailleurs extrêmement passionnant. Le système était le suivant. Il s'agissait d'abord de faire partir la Corse de l'ensemble, enfin, de faire sortir la Corse de l'ensemble français. Ce qui permettait d'abandonner toutes les lois, à commencer par la loi littorale. Et ensuite, le projet était de faire de tout le long du désert des Agriates, c'est-à-dire depuis la pointe du Cap Corse pratiquement, jusqu'à Calvi, un gigantesque mur de béton, c'est-à-dire une gigantesque suite d'immeubles, hôtels et casinos, un peu sur le mode de ce qui a été fait sur la
Costa Brava,
ou sur la Costa Brava, ou en France, là-bas en bas, où il y a le bateau échoué. C'est dans ce coin-là. Et alors, le système était le suivant. C'était tout à fait génial, leur truc. Si vous vouliez aller en Corse, vous alliez dans une agence. Et dans cette agence, on vous vendait des jetons de casino. Ok ? Donc vous achetiez, mettons, pour 5000 francs de jetons de casino. Et avec ces 5000 francs de jetons de casino, qui étaient bleus, par exemple, on vous donnait un billet et un certain nombre de nuitées gratuites dans un hôtel en demi-pension. Hôtel relativement luxueux. Quand vous arriviez là-bas, vous jouiez vos jetons bleus, qui n'étaient pas remboursables. C'est-à-dire que vous étiez obligé de tout jouer, ou de toute façon, l'argent était perdu. Et moyennant quoi, vous aviez dans l'hôtel de votre choix, près du casino, une chambre, avec le dîner ou le déjeuner, accès à la plage, et le voyage gratuit, avec des aéroports qui étaient construits derrière le mur de béton constitué de casinos et d'hôtels. Ça aurait fait Las Vegas pour l'Europe. Et ils ont ça dans la tête depuis bien une trentaine d'années. Et toute l'histoire qui suit, c'est ça. Par-delà, alors à partir de là, se sont branchés là-dessus des braves gens, c'est-à-dire à la fois des vrais patriotes corses, qui trouvent que, étant donné ce qui est en train de devenir la République hexagonale, c'est peut-être pas la peine d'y rester trop longtemps, parce que le peu qui reste du peuple corse va être enseveli sous l'ordure, la cochonnerie démocratique. Vous avez eu des écolos qui se sont emparés du truc, vous avez les partis politiques qui naturellement se sont emparés du truc, et puis il y a des petits gangs qui se sont dit, mais il n'y a pas de raison que nous on n'ait pas notre petite part du gâteau. Et donc ça a commencé à faire cette espèce de bouillon de chaudron de sorcière avec le bouillon empoisonné qui est en train de tuer la Corse. Mais moi je sais ça depuis 30 ans. Apparemment, le brillantissime monsieur Sarkozy vient de le découvrir après 2 ans de ministériat de l'Intérieur, ou 1 an et demi, je ne sais plus combien, enfin peu importe. Moi, j'avais cru qu'il y avait des services, qu'on appelle les renseignements généraux, par exemple, qui sont chargés de dire au ministre, voilà ce qui se passe. En plus, comme moi, je le sais depuis 30 ans, je suppose que les renseignements généraux le savent depuis 40. Ou alors, ils sont encore pires que ce qu'on pouvait penser.
Est-ce que je peux vous suggérer une explication ?
Suggérez donc.
Vous savez, Serge, que certainement qu'il y a des élections à l'approche. Est-ce que la découverte de cette naïveté par Sarkozy ne vous en rappelle pas une autre ? À l'approche de l'élection présidentielle, Monsieur Jospin, lui aussi, s'était déclaré naïf à la face du monde. En nous disant, nous avons eu la naïveté de croire que la croissance et le recul du chômage allaient régler pour l'essentiel le problème de l'insécurité. Pardon, nous avons été naïfs, nous ne le ferons plus, tout va s'arranger. Sarko nous fait exactement le même
plan. Est-ce que vous voudriez sous-entendre que nous serions gouvernés par des imbéciles ? Alors là, je vous arrête tout de suite parce que ça supposerait que la démocratie n'est pas un système viable. Parce que le principe de la démocratie, c'est quand même à partir d'un problème, enfin d'un fait avéré et vérifié. C'est que la majorité des gens sont ignares ou idiots. Je dis pas tous, mais la majorité. C'est statistique. Il y a moins de gens intelligents que d'imbéciles. Mmh. Donc si on fait voter la majorité, on est forcé d'avoir l'opinion majoritaire des imbéciles. Alors ça voudrait dire que les imbéciles sont tellement imbéciles qu'ils votent pour des imbéciles. C'est très inquiétant pour la démocratie.
Mais qui en plus sont naïfs. Et là, naïf, Patrick me l'a volé, mais moi je voulais faire le rapprochement entre la naïveté de Monsieur Jospin, naïveté avouée devant l'insécurité avant les élections, et là le mot est repris par un ministre de droite, il parle de naïveté Chiraquien, même pas baladurien pour être clair, et qui parle à son tour de naïveté. Alors, je veux dire, c'est une constante dans le monde politique, la naïveté, c'est très grave.
Et alors il dit une chose aussi qui est formidable.
Naïf élu par des imbéciles.
Seulement, vous comprenez Je vois ça dans le monde, et puis je lis dans le Canard Enchaîné, parce que je lis aussi le Canard Enchaîné, c'est pas un métier drôle la presse.
C'est la même direction.
On croit que c'est un métier amusant d'être journaliste, mais il faut vraiment lire n'importe quoi. Je lis que, dans le Canard Enchaîné, donc, que l'aimable procureur de Juppé avait sa promotion en poche. Alors vous savez, c'est le procureur, je suppose qu'ils ont vu qu'il était aimable, parce qu'on ne peut pas dire qu'au cours de son réquisitoire, il a été particulièrement aimable avec M. Juppé, le substitut René Grumman, mais il s'explique qu'il aurait eu sa promotion en remerciement de son amabilité, qui reste à prouver. Mais le Parisien, il y a quelques temps, avait publié un portrait de ce substitut qui était tout simplement une fiche RG. Alors moi je voudrais que Sarkozy, s'il a deux minutes, m'explique comment, ou alors c'est peut-être ça la raison, c'est peut-être parce que les RG sont tellement occupés à fliquer les anciens militants de la droite nationale qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des actuels voyous de la mafia corse. C'est possible. Hein, allez savoir.
Autre indice de l'approche des élections, ça fait un certain tollé aujourd'hui. Sarkozy a donné pour consigne à la BAC et à d'autres services de police de réaliser des quotas de garde à vue. Et un de ces policiers répondait sur une chaîne de radio nationale ce matin que c'était quand même pas possible, que les gardes à vue étaient fonction des affaires.
Oui, alors ça,
On pourrait croire donc qu'il veut faire du crâne, qu'il veut faire du chiffre à l'approche des élections.
C'est exactement ça, puisque ils disent, voilà, la brigade anticriminalité est portée à 45 fonctionnaires encadrés par deux officiers, elle doit réaliser l'objectif minimum de 6 gardes à vue journalières. C'est-à-dire, bon, les gars, ils sont dans un village ou dans un bled où il se passe absolument rien, donc à mon avis, le patron va leur dire, les gars, il est 8h moins 10, à 8h, on n'a pas les 6 gardes à vue, donc vous me chopez les 6 premiers connards qui passent, on les allume.
On n'a qu'à bien se tenir en sortant d'ici, nous.
Donc il faut faire attention en sortant, il faut rester très poli. Hein. Bon. Le roulement, alors, dirigé par un commandant assisté d'un major, un second major est programmé, c'est Robocop.
Oui.
Ce service a été remis à niveau pour que 5 équipages puissent être déployés sur la voie publique. Un minimum de 4 gardes à vue par 24 heures doit être l'objectif à atteindre. 2 minimum la nuit. Et l'UCL, alors là, unité de, je sais pas quoi, je sais pas ce que ça veut dire. Les 12 fonctionnaires composant l'unité doivent impérativement procéder à 2 gaves, 2 gardes à vue journalières. Vous remarquerez que là encore, l'égalité n'est pas de mise puisque 45 fonctionnaires encadrés par 2 officiers, on leur en demande 6. 5 équipages encadrés par un commandant assisté de 2 majors, on leur en demande 4. Et 12 fonctionnaires, on leur en demande 2. Moi, je préférerais appartenir à l'UCL que à la BAC. C'est moins fatigant.
S'ils veulent faire dans la facilité, je leur indique qu'il vaudrait mieux qu'ils soient dans mon quartier, c'est dans l'Encrouilland, où là, sans trop se fatiguer, ils vont arriver à la statistique. C'était quand même, en plus.
C'est le 20e arrondissement de Paris.
Le 18e. Très chic.
Où Monsieur Vaillant sévissait à une époque. En plus, il était ministre de l'Intérieur.
Donc voilà. Alors effectivement, maintenant, le but n'est pas d'installer l'insécurité pour la canaille. Le but, c'est de faire des gardes à vue. Et d'ailleurs, moi j'ai une idée. les flics pourraient rester tranquillement dans leur commissariat, ils prendraient les clodos du quartier, ils leur diraient, je te file un kill de rouge, un billet de 10 euros, et tu te présentes, on te fout en garde à vue, et on a fait notre quota.
Je viens de voir un film suédois qui s'appelle Cops, comme c'est normal puisque c'est un film suédois, et qui montre la brigade de police d'un petit bled en Suède à qui on annonce qu'elle va être dissoute. Alors les gars, ils font le même raisonnement naïf que Sarkozy, ils disent il faut absolument qu'on fasse du chiffre. Et ils ont la même idée que vous, Serge, c'est-à-dire qu'ils prennent le poivre du coin et qu'ils lui donnent deux bouteilles de vodka pour qu'il fasse un casse.
Le scénariste de cinéma.
Oui.
Jean-Paul Le Perlier.
Plutôt que de faire de nombreuses gardes à vue, il vaudrait mieux qu'elles soient plus longues, parce que les gardes à vue telles qu'elles ont été réduites aujourd'hui sont parfaitement inefficaces. On oublie qu'on met en garde à vue très souvent des coupables, mais parfois aussi des innocents. Et il faut qu'il y ait le temps de se créer un climat de confiance avec les policiers. Il faut que les policiers aient le temps...
Pour que le gars accepte de reconnaître...
Non, pour qu'il accepte de parler, parce que le type innocent qui se fait arrêter, ça m'est arrivé. Mais il est révolté, lui. Il demande ce qui lui arrive. Alors, il faut qu'il ait le temps de déclarer des choses, que les policiers aillent vérifier, qu'ils reviennent, qu'ils se rendent compte que le type est de bonne foi, etc. Et les gardes à vue longues sont une catastrophe pour les crapules, mais sont ce qu'il y a de mieux pour quelqu'un qui sera innocent. Qui se fera arrêter. Et c'est véritablement dramatique ce qu'on a fait que de raccourcir les gardes à vue. Les policiers ne peuvent plus travailler avec des gardes à vue aussi courtes qu'aujourd'hui.
Et ça permet d'en faire plus et d'avoir des meilleurs chiffres avant les élections. C'est ça que vous comprenez.
Ce qui compte, ce sont les arrestations des crapules et pas de mettre les gens, parce qu'en plus, c'est même pas marqué dans le journal.
Vous n'êtes jamais ministre de l'Intérieur.
Non. D'ailleurs, à propos de la Corse, j'ai parlé il y a ça quelques temps avec un vieux Corse que vous connaissez bien, de 85 ans depuis quelques temps, et qui vient d'être fait. Commandeur de la Légion d'honneur, Maître Jean-Baptiste Biaggi. Voilà. Et qui sait de quoi il parle. Il est quand même ancien député. Il a quand même été maire de son village en Corse, Cagnano, pendant des années. Mais qui me disait, il n'y a jamais eu de problème corse. Il y a simplement en France un problème d'État. Il n'y a plus d'État français, il n'y a plus d'autorité française, et en Corse, le seul problème, c'est un problème de mafia qui s'installe, et sans doute ce que vous disiez avant que j'arrive, j'ai cru le saisir, mais il n'y a pas de problème corse. Que la France redevienne un État fort, simplement, et tout rentrerait dans l'ordre, c'est ce que disait Maître Biaggi avec son immense expérience.
Enfin, ces histoires de garde à vue, on rappelle la vieille histoire du flic qui tabasse vraiment très très violemment un gars et qui lui dit « Tu vas parler, salaud, tu vas parler, salaud !» Et au bout d'un moment, le gars lui dit « Je voudrais bien parler, mais qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Voilà. Bon, maintenant, on va prendre quelques minutes de repos parce que, pour des raisons techniques, j'ai réalisé juste avant cette émission un entretien téléphonique avec Bernard Anthony qu'on va vous donner à entendre. Et ensuite, comme avec Bernard, nous avons parlé... du Liban et de la question islamique au Liban, entre autres, et de ses éventuelles répercussions, de son aspect français, je recevrai, donc comme j'ai annoncé, Laurent Lagartang, qui vient d'écrire un petit guide du Coran. C'est un bouquin extrêmement intelligent, parce que il n'est pas pris du tout sous l'angle habituel, où on nous explique la première à la dernière page, voilà ce que dit le Coran, voilà ce qu'il ne dit pas, et tout. Je voyais dans la une de Minute aujourd'hui, qui dit... c'est vraiment contre-productif d'une façon... Bon, enfin, chacun fait comme il veut, mais le titre de Minute, c'est « Le Coran n'oblige à rien ».
Ben, il faut quand même que les lecteurs de Minutes sachent comment ils peuvent se conformer au Coran.
Voilà. C'est pour les maîtres, bien sûr. Alors là, c'est pas du tout ça. C'est un livre qui est construit, on va en parler, mais selon quatre itinéraires. L'itinéraire des mots, l'itinéraire des thèmes, l'itinéraire des valeurs et l'itinéraire des origines. Et c'est extrêmement intéressant comme façon d'aborder le Coran, parce qu'on va tout droit, tout de suite, au cœur des questions fondamentales, comme disent les gens intelligents. C'est pour ça que j'ai copié sur eux. Donc, on écoute d'abord Bernard Anthony pendant une bonne demi-heure, et puis ensuite, oui, Franck, un peu plus d'une demi-heure, il est pas content, Franck. Et puis ensuite, on parlera avec Laurent Lagartang de son petit guide du Coran qui est paru dans une maison d'édition qui travaille drôlement bien, qui s'appelle Concept, et qui vient, je l'indique au passage, mais on en reparlera plus longuement, de publier les mémoires de Daniel Raffard de Brienne, sous le titre « Droit vers l'azur ». C'est un très joli travail d'édition, parce que vraiment, chez nous, on a parfois, on privilégie un peu le fond par rapport à la forme. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu, je dirais pas bâclé, mais un peu approximatif, le travail éditorial. Et là, ces éditions Concept font de la véritable édition professionnel, c'est très très joli, c'est impeccable. Il n'y a pas les 12 milliards de coquilles obligatoires dans la...
Il y en a quelques-unes, mais enfin...
Oui, mais enfin, pas 12 milliards.
C'était très bien, corrigé.
Et puis, l'esthétique de la couverture, c'est très réussi.
Une belle jaquette, oui.
Donc, d'abord Bernard Anthony, ensuite Laurent Lagartempe. Bernard Anthony, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Bernard Anthony, vous deviez être dans le studio ce soir, je l'indique pour que les... Les auditeurs sachent qu'ils ne pourront pas vous poser de questions puisque vous ne pourrez pas y répondre, faute d'être devant le micro. Mais on a quand même décidé de faire un petit entretien par téléphone parce que vous aviez un empêchement de dernière minute pour venir à Paris. Et vous êtes dans votre province.
Oui, oui. Mais je promets que ça n'arrivera plus. La dernière fois que nous faisons cela au téléphone, chers auditeurs.
Exceptionnellement, vous ne serez pas fusillé.
Merci.
Alors, notre ami Goffman a chaussé les écouteurs.
Je le salue.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Patrick.
Sur sa tête. Et s'il y tient absolument, il peut participer à la conversation. Vous y tenez, Goffman?
Ben déjà, je tiens à préciser de quelle province vous parliez, parce que moi je l'aime beaucoup, le sud-ouest.
C'est le sud-ouest, je suis au cœur de mon pays, à Saint-Lieu-les-Lavaurs, près de, entre Albi et Toulouse.
Saint-Lieu-les-Lavaurs, ça veut dire les labours, les Lavaurs, hein?
Non, les Lavaurs, ah non, on ne va pas faire un débat sur l'étymologie, mais Saint-Lieu, c'est un diminutif occitan de Saint-Léon. Mais moi, je rentre des lieux saints, et ma foi...
Mais moi, je croyais que c'était pour ça qu'ils avaient appelé cet endroit comme ça, parce que vous y habitiez, et ça devenait un saint lieu. Non, c'est pas ça.
Mais ma foi, il y a comme ça des correspondances.
Enfin, pas vous, je dirais, Elisabeth, plutôt.
Voilà, Elisabeth, plutôt, oui, ma chère épouse.
Voilà. Bon. Bernard, vous rentrez du Liban.
Oui.
C'est curieux, cet attachement pour le Liban. Est-ce que c'est un voyage dans le temps, en quelque sorte? Parce que depuis le temps qu'on dit, qu'on parle de la libanisation de la France, qu'on dit que la France va être libanisée, etc., est-ce que vous allez là-bas pour voir si c'est en bonne voie ou... Quel est le motif de votre attachement particulier pour ce pays?
Je viens de terminer un article pour Reconquête qui s'intitule « Le Liban, miroir de notre avenir ». C'est vrai que j'ai un attachement, comme beaucoup de Français qui ont fréquenté le Liban, à ce pays. Parce que ce pays, c'est un peu pour nous, je le dirais, la revanche de l'Algérie française perdue. Parce que là, il y a une communauté chrétienne qui s'accroche. Elle a commis, elle aussi, des erreurs, elle a eu des chefs quelquefois irresponsables, mais ils sont toujours là. Ça n'a pas été, la fuite est perdue. Et voyez-vous, le Liban, c'est une montagne sacrée. Il n'est pas un sommet où il n'y ait un monastère, une chapelle, une croix. Et autour, c'est l'immense mer islamique. Et voyez-vous, il y a quelques années, effectivement, ce Liban était nôtre. On nous y accueillait, la presse, la télévision, parce que nos amis étaient les maîtres de ce petit pays. Aujourd'hui, ils ont été submergés. Ils ont été submergés, mais ils sont toujours là. Et ils sont toujours là avec une résistance admirable. Je vais vous donner deux scènes auxquelles j'ai assisté. La première, autour de Setrida Jaja, dont j'ai déjà parlé à Radio Courtoisie, l'extraordinaire épouse de Samir Jaja. C'était l'anniversaire de Samir, de son mari, en prison, pour la 10e année consécutive. Il y avait là uniquement, on ne pouvait faire autrement, les délégués des sections universitaires des forces libanaises. Ils étaient 80. Vous voyez, ça fait envie. Mais il y a 3 semaines, le patriarche Sfer avait célébré une messe pour les martyrs chrétiens et pour Samir Jaja. Tout le monde savait bien qu'il s'agissait d'une messe pour lui, parce que c'est un homme absolument héroïque. Il y avait là 22 000 jeunes militants. Voyez-vous, ça fait rêver.
22 000 jeunes qui participaient à la messe. Ça s'est passé à quel endroit?
Ça s'est passé au patriarcat de Kerké, puisque le patriarche a fait construire ce qui surplombe magnifique hôtel pour accueillir de tels rassemblements. Ils étaient 22 000, malgré la police, malgré l'armée qui filtrait, qui avait organisé les pires difficultés, ils étaient 22 000. C'est dire qu'ils ne renoncent pas. Mais lorsqu'ils font des manifestations, lorsqu'on les arrête... quelquefois, ça tourne au tragique, comme l'un d'entre eux qu'on a rendu une semaine après, mort. Tout n'est pas parfait au Liban, c'est une société très contrastée. Mais quand je dis le miroir de notre avenir, pourquoi le miroir de notre avenir? Parce que c'est la confrontation avec le défi islamique. Le Liban est déchiré entre deux fauves, le fauve israélien et le fauve arabo-musulman. Les deux convoitent l'eau de cette montagne, parce que cette montagne, c'est une source dans un immense désert. Donc, on parle toujours du pétrole pour le Proche-Orient. Ce n'est pas toujours très bon. Le pétrole n'aura qu'un temps. Par contre, l'eau est indispensable. Et les batailles de l'eau motivent dès maintenant beaucoup plus, que, au moins autant que les batailles du pétrole. Alors, voyez, cette montagne est convoitée. Elle est convoitée pour des raisons économiques, mais surtout, eh bien, certains ne supportent pas cette montagne surmontée de ses proies. Alors, c'est le grignotage islamique. Le grignotage islamique, marqué par cette volonté symbolique aussi de Monsieur Rafik Hariri, non, Rafik, mais moi je l'appelle Rafik Hariri. C'est le premier ministre du Liban, c'est le bienfaiteur de Jacques Chirac, je ne voudrais pas en dire plus. Eh bien, c'est l'ami intime.
C'est un des bienfaiteurs.
Un des bienfaiteurs, mais celui-là est un gros bienfaiteur. Eh bien, Monsieur Rafik Hariri fait construire sur la place des martyrs au Liban, c'est-à-dire le cœur de Beyrouth, le cœur de ce pays, une immense mosquée qui sera bâtie sur les plans de Sainte-Sophie de Constantinople. Voyez-vous, cela n'est pas sans signification. Et par ailleurs, je ne peux pas parler de cette montagne dans laquelle le Père Avril, que nous aimons beaucoup, poursuit une œuvre extraordinaire dont je reparlerai, je l'espère, à l'occasion. Mais on la convoite. On la convoite et les riches émirs, je dois dire, j'avais des hauts le cœur en regardant qui fréquente désormais Beyrouth, etc. Ces impudents qui viennent couverts d'or. Alors, autrefois, on avait le culot dans le journal Le Monde, à Libération et ailleurs, n'est-ce pas, Patrick Dovman, de parler des islamo-progressistes et de parler des riches chrétiens. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, quand on découvre les zones que je ne connaissais pas bien jadis, les zones musulmanes de Beyrouth Ouest, eh bien, les hôtels d'un luxe inouï sortent partout de terre. On voit se promener là les émirs qui viennent prendre le frais, mais aussi dans leur chambre, le champagne, le whisky qui coule à gogo avec les houris qu'ils aiment rencontrer venant des pays de l'Europe de l'Est. Ils achètent tout. À côté d'eux, les bidonvilles, la misère noire. Et je peux dire que quand on regarde l'œuvre chrétienne au Liban et l'œuvre chrétienne au Liban et l'œuvre musulmane, eh bien, on n'a pas de quoi être honteux de notre religion.
Et est-ce que vous partagez l'opinion de Claude Imbert qui a fait savoir il y a quelques jours de la façon...
Vendredi dernier sur LCI.
Vendredi dernier, donc, sur LCI, qui a fait savoir qu'il était, il l'a dit très précisément, un peu islamophobe.
Oui, mais le un peu me gêne pour qu'il y ait de moi.
Bien.
Bon, mais vous n'êtes pas un peu islamophobe, félicitations. Donc, Radio Courtoisie ne sera pas suspendue par le CSA. Merci, Bernard Anthony.
Oui, c'est bien de ne pas être un peu islamophobe.
Oui, non. Je ne suis pas du tout un peu islamophobe. Et d'ailleurs, vous le savez bien, c'est de Becket, puis je suis aussi un modéré, un républicain modéré, un démocrate modéré. On ne peut m'accuser d'aucune turpitude, je crois.
Hein. Bienvenue au club. Alors, donc ce Liban, est-ce que vous pensez réellement qu'il préfigure, comme on nous le dit depuis longtemps, ce qui pourrait se passer en France ?
Avec, hélas, ce que nous n'avons pas, une expérience séculaire de résistance. Parce que, voyez-vous, le Liban n'est jamais tombé. Et je ramène des impressions très contrastées, que je vais écrire de mon mieux. Impressions très contrastées parce que Eddy Abilama, notre vieil ami, qui connaît bien Radio Courtoisie d'ailleurs, quand il vient à Paris, porte-parole des forces libanaises, me disait, contrairement à ce qu'on croit, les chrétiens ne sont pas minoritaires. Nous sommes encore bien plus de 40%. C'est la propagande qui veut croire que nous sommes moins. Et puis, il me disait ceci. Les musulmans, de plus en plus riches, font de moins en moins d'enfants. Les chrétiens, de plus en plus pauvres, font de plus en plus d'enfants. Je verse cela à la réflexion des psychosociologues. Alors donc, le Liban tient à une expérience du défi islamique. Ils savent comment parler, ils savent ce qu'il faut faire. Et ils craignent pour nous. J'étais avec un repas de professeurs admirables l'autre jour, eh bien, ils me disaient, nous craignons que vous ne sachiez pas profiter de notre expérience. Et c'est cela que je m'attache à faire passer avec les moyens dérisoires qui sont les miens. Enfin, grâce à Radio Courtoisie, c'est moins dérisoire. Et voilà pourquoi aussi, j'organise la prochaine grande université catholique d'été au Liban, dans un site d'ailleurs incroyable, admirable, comme on ne peut pas en rêver. du 19 au 29 juillet. Je crois que beaucoup de ceux qui étaient dans notre camp en 84, dans des conditions très différentes, plus rustiques et plus rudes, reviendront 20 ans après, comme dans les Trois Mousquetaires. Ils reviendront parce que je crois que le premier séjour les avait marqués, des liens s'étaient noués, et c'est, j'allais dire, un centre de formation sur le terrain que ne remplace aucun colloque, aucun séminaire que nous pouvons organiser en France. Alors bien sûr, ils auront nos conférenciers, ils auront nos amis libanais les plus admirables, ils rencontreront tout le monde, mais surtout, je tiens bien à les amener en Syrie, à leur faire voir ce qu'est le Hezbollah. Bon, je sais que j'ai affaire à des gens courageux, on sera un tout petit peu peut-être aventureux.
Et quelle est la réaction des Libanais en ce moment devant un Français? Avant, ils étaient très chaleureux, très accueillants. Est-ce que c'est toujours pareil?
Pour ce qui est de nous, ben, vous savez, c'est tristesse pour nous que de voir comment on a abandonné ce pays. Mais enfin, vous voyez, j'ai été ému aux larmes en admirant l'œuvre du Père Avril, une centaine de petits gosses des villages de la montagne que je connais bien, puisque c'est là que nous étions jadis, ces petits gosses parlent le français dès l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Bon, chaque fois que nous arrivons, les amis se pressent, les étudiants, les professeurs, donc le capital de la France est quasiment inentamé, malgré toute nos turpitudes. Nul n'oublie non plus, à Beyrouth, je l'ai constaté, les parades du Drakkar. Et il va de soi que lorsque nous nous rendrons au Liban, la première des choses que nous ferons, à la descente même de l'avion, un quart d'heure après, ça sera d'aller nous recueillir sur les lieux où ont été assassinés nos parachutistes par les commandos islamistes contrôlés par les Syriens.
Qu'est-ce que c'est devenu cet endroit aujourd'hui, le Drakkar?
Vous savez, c'est la banlieue, c'était la banlieue déjà sous contrôle Hezbollah et des différents groupes terroristes. Il n'y a plus rien. C'est quelque chose, c'est rasé. Et il y a une petite marque de ce qui s'est passé là, mais presque rien. Il faudrait, d'ailleurs, je ne veux pas lancer inconsidérément des projets, mais je pense que nous nous pencherons sur la nécessité d'établir là un monument digne de nos parachutistes qui sont tombés et dont je connaissais deux d'entre eux, le capitaine Thomas et l'adjudant Bagnis. Je n'oublie pas davantage qu'à Beyrouth, et on m'en parle souvent, sont morts Stéphane Zanettaci, militant solidariste, qui était un de mes amis et ami de Jean-Pierre Stirbois, ainsi que le capitaine Borella, qui quitta le monastère du Barou pour tomber à Beyrouth trois jours après.
Quelles sont les relations, s'il y en a, entre les différentes tendances de la communauté chrétienne et les Israéliens?
Oui, écoutez, d'abord aussi, signe positif, parce que le Liban bénéficie, on l'a vu d'ailleurs à Paris, du fait qu'il a cette fois-ci un grand patriarche, courageux. Alors, il faut dire qu'il y a, Dieu merci, moins de confrontations entre les forces chrétiennes. Et je ne rentrerai pas ici dans les détails, mais chaque mois se réunit dans un village qui s'appelle Kornet Chewan la plupart des organisations chrétiennes que préside le patriarche directement ou en envoyant son délégué. Pour ce qui est des Israéliens, eh bien, là, ça nous amènerait à faire beaucoup de géopolitique. Les Israéliens ont abandonné le Liban. Les Libanais, peut-être, avaient-ils commis quelques erreurs aussi. Mais enfin, vous savez, le Liban ne s'est pas remis de l'assassinat de Béchir Gemayel, qui déplaisait à la fois aux Syriens et à certains Israéliens. Je crois que la politique israélienne est claire. Je ne vais pas aujourd'hui en parler, nous n'aurions pas le temps. C'est une politique de continuité territoriale et d'homogénéisation de la population.
Trois pas. Ça veut dire épuration ethnique, ça, non?
Trois pas en avant, deux pas en arrière, ça s'appelle de l'épuration ethnique, effectivement. Et donc, que veulent-ils? Ben, ils appliquent au pied de la lettre, en quelque sorte, les objectifs des grands maîtres du sionisme que j'ai lus. Ils veulent faire un pays, ils se taillent un pays, mais cela est dangereux pour le reste de la région. Alors, ils ont expulsé déjà beaucoup. Bon, il y a en Jordanie 55% de Palestiniens. La Jordanie est un désert dans son ensemble. Elle ne peut pas en recevoir plus. Au Liban, il y a 400 000 Palestiniens. Alors, le Liban peut-il recevoir encore 1 million de réfugiés palestiniens. Cela est impossible. Ça fera de ce pays un gigantesque bidonville. C'est ça l'enjeu. Je crois que les Israéliens ont d'ailleurs eu tort de ne pas continuer une politique qui avait été esquissée par certains d'entre eux d'alliance des minorités religieuses. Ça aurait permis une continuité donc sur plusieurs, sur près de 800 kilomètres de côte. Je pense que la politique israélienne d'apartheid n'est pas tenable, mais ils le savent. Ils ne sont pas inintelligents, ils sont même très intelligents. Alors ils savent fort bien que ça n'a pas tenu en Afrique du Sud, ça ne peut pas tenir chez eux. Alors quelle est l'explication? L'explication, c'est que chaque fois qu'ils mettent un confetti supplémentaire de colonisation israélienne dans les territoires, ils préparent tout simplement l'évacuation de l'ensemble. Et ça, ça va déstabiliser toute la région. Et évidemment, vous comprendrez que moi, que contrairement aux grandes forces de ce monde, je m'inquiète plutôt du sort des chrétiens que du sort des Israéliens ou du sort des Arabes. Et je crois d'ailleurs, hélas, qu'il y a une objective complicité entre, par exemple, Israël et l'Arabie saoudite, et je pourrais développer cela, non pas qu'ils s'aiment, mais il y a une objective complicité, le Liban, c'est un tout petit peu leur exutoire, et je crois que nous ne pouvons pas accepter cela, et il faudrait pour cela, évidemment, une autre politique étrangère de la France que celle que nous connaissons.
Bernard, je rappelle que cette conversation est enregistrée une demi-heure avant l'émission de ce soir, puisque nous sommes mercredi, là. Et donc on ne pourra pas, les auditeurs ne pourront pas vous poser de questions, mais ils peuvent naturellement faire connaître leurs sentiments sur vos propos. Vous nous avez dit que il y avait à l'heure actuelle 400 000 Palestiniens au Liban et que si la politique israélienne d'expulsion des Palestiniens portait ses fruits, il y en aurait 1 million et que ça transformerait le Liban en un gigantesque bidonville. Mais moi, ça me pose quand même, comme on dit maintenant, une question. Pourquoi systématiquement, quand il y a un afflux de Palestiniens quelque part, ça devient un gigantesque bidonville, alors que quand il y a eu un afflux de pieds noirs en France, par exemple, exactement, qui était 2 millions, et ça n'a pas provoqué de gigantesque bidonville? Oui. Ou pourquoi, quand les Juifs d'Europe sont allés en Israël, ça n'a pas provoqué un gigantesque bidonville, mais même la transformation d'un pays en pays moderne, ce qui n'était pas le cas avant?
C'est une très bonne question, une très bonne observation. Je tiens à préciser tout de suite que je dis ça sera un million, je ne le souhaite pas. Je pense qu'il peut y avoir des retournements dans la politique israélienne. Mais ce que vous dites est très vrai, et c'est là que nous sommes devant, le spectacle d'un tempérament, et je ne veux mettre nulle connotation racialiste dans mon propos, mais l'indifférentisme oriental. Alors je sais bien que c'est le Ramadan en ce moment, que parmi les prescriptions du Ramadan, il y a celle de l'aumône, zakat, mais enfin, et je dois dire que si chez nous, on voyait pousser des palais comme l'on en voit, des hôtels fantastiques comme l'on en voit, à quelques dizaines de mètres quelquefois, quelques centaines de mètres d'un grouillement de population dans des tôles et dans des cartons, cela provoquerait des émeutes. Eh bien, l'Orient, c'est comme ça. Alors, ces riches émirs du pétrole qui viennent... écoutez, l'autre soir, j'étais à Alay. Alay, ce sont les hauts de Beyrouth, mais c'est déjà la montagne un peu fraîche. Ils ont complètement acheté cette montagne-là, avec des hôtels d'un mauvais goût, mais ultra luxueux, avec des boîtes de nuit. C'est une richesse opulente qui pue le pétrole par toutes les robes des émirs qui se promènent. Mais comment n'y a-t-il pas de révolution?
Mais surtout, comment ces gens-là ne pensent-ils pas à faire ce que tous les juifs du monde ont fait au moment de la fondation d'Israël et dans les années qui ont suivi et encore aujourd'hui, c'est-à-dire à financer la fondation et la survie de l'État d'Israël? Pourquoi ces milliardaires du pétrole et des pays arabes du monde entier ne pensent-ils pas à financer... toute la diaspora musulmane et arabe ne pensait pas à financer les Palestiniens?
C'est une grande question, parce que pour ma part, j'ai toujours admiré la solidarité du peuple juif. Mon ami Samir Jaja me disait il faut que les chrétiens d'Orient fassent ce que les juifs ont su faire en Israël, parce que les juifs constituent effectivement, ils ont eux aussi commis leurs erreurs, ils ont leurs contradictions, ils ont leurs oppositions. Bon, on pourrait, mais nous ne parlons pas ce soir essentiellement de la question israélienne. Mais il est vrai qu'ils ont su quand même créer de la solidarité comme les Arabes ne savent pas le faire. Parce que, enfin, le sort de 2 millions de Palestiniens pourrait être largement amélioré, effectivement, si l'on consacrait un tout petit peu du budget des immenses richesses accumulées de l'Arabie Saoudite et du Koweït.
Ça me fait penser un peu à la situation française, parce que, toute proportion gardée, on nous dit en permanence que le Maroc, l'Arabie Saoudite finance en France la construction de mosquées. Mais j'ai pas entendu du tout dire que ces mêmes pays finançaient, par exemple, la construction d'hôpitaux en France. Or, il se trouve que la semaine dernière, j'ai eu besoin d'aller à l'hôpital Lariboisière, qui est aux urgences de Lariboisière. C'est le 7e cercle de l'enfer. C'est vraiment le 7e cercle de l'enfer. Et il y a là une population qui est exclusivement afro-maghrébine et musulmane. Exclusivement, aussi bien d'un côté d'ailleurs, du côté des malades, que pratiquement du côté des soignants. Et ça, c'est évidemment totalement à la charge du système social français. Et quand on pense aux milliards qui sont, nous dit-on, dépensés pour la construction de mosquées un peu partout en France, il va y avoir une mosquée gigantesque à Lyon, il y a une mosquée maintenant gigantesque dans un haut lieu de la chrétienté dans le Massif Central dont le nom ne me revient pas pour l'instant.
À Marseille, il y a
un projet immense. À Paris, on ne les compte plus. Vraiment, on se demande...
Écoutez, en France, on parle de l'alouette et du cheval. Là, c'est encore pire. Il s'agit, pour ce qui est de l'islam, de l'alouette sociale et du dromadaire religieux, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas effectivement, à mon sens, un centième de l'effort financier qui est consacré pour les mosquées, donc consacré à la solidarité. Mais nous sommes faits pour ça, en quelque sorte. L'Occident doit payer la charité. C'est l'affaire des chrétiens, c'est l'affaire des roumis. Alors évidemment, il y a quelques institutions, mais enfin, cela nous amènerait donc effectivement à constater ces évidences-là, et je ne puis qu'abonder dans votre judicieuse observation, chers amis.
Pendant que vous êtes de bonne humeur, Bernard, je vois que nous approchons du terme là, du temps qui nous est imparti, et je voudrais vous reparler de Samir Jaja.
Non, on va parler d'autre chose. On a un peu de temps, Patrick.
Ah, bon.
Je peux quand même vous reparler de Samir Jaja, parce que vous savez que nous avons plus que largement contribué à faire sortir un écrivain russe, franco-russe, Edouard Limonov, des geôles russes, ce qui demandait quand même une certaine allonge et un certain levier. Voilà 10 ans que Samir Jaja est en prison. Voilà 10 ans que Michel Lajoie est en prison. Est-ce que nous ne pourrions pas publiquement, devant les centaines de milliers d'auditeurs de Courtoisie, nous donner rendez-vous pour étudier les voies et les moyens de sortir nos amis de prison, ne serait-ce que pour cette seule raison que... Pour tous nos amis, c'est inquiétant de voir que si on lutte de notre côté, on peut moisir. Quelqu'un me disait, un journaliste de la grande presse me disait récemment que c'était un véritable masque de fer que Samir Jaja. C'est inquiétant. On peut être abandonné en prison pendant 10 ans. On ne peut pas laisser faire ça davantage. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, voilà 10 ans que je lutte avec les moyens dérisoires qui sont ceux de chrétienté et solidarité. J'ai alerté, mais Samir, qui suscite un grand enthousiasme au Liban, parce que il s'est sacrifié. Avant de répondre même à votre question, je tiens à rappeler que j'ai assisté un jour à une conversation hallucinante. Le président précédent de la République du Liban, Rawi, appelait Setrida Jaja, et il lui disait: tu sais, ton mari, il a 3 solutions. Ou bien il s'en va du Liban, ou bien il accepte d'être ministre, ou bien on le met en prison, on le condamne à mort. Et il a été condamné à mort à 3 reprises. Je tiens à saluer ici le courage de ses défenseurs, Maître Patrimonio, qui est mort aujourd'hui, notre grand ami, et Valerand Saint-Just, que je ne présente pas aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui a été donc acharné dans la défense de Samir Jaja, et je crois, d'une certaine manière, assure un peu sa protection, parce que on sait que nous sommes attentifs au sort de Samir. Ce que nous avons fait n'a sans doute pas déjà été inutile. La griffe, il faut le dire, ça n'est pas sa motivation principale, mais a réuni quelquefois tout ce qu'elle pouvait de ses meilleurs avocats pour aider Samir. Alors Samir est toujours depuis 10 ans au troisième sous-sol du ministère de la Défense. Il est seul. Sa femme, Setrida, qui est cette admirable jeune femme que j'ai souvent décrite, donc peut le voir 2 fois par semaine pendant 1 heure, mais ils ne sont pas seuls. Hein, il y a toujours un flic de service à 50 cm d'eux. Vous imaginez ces choses-là. Alors, je suis d'accord avec vous. Et vous parlez de Michel Lajoie. Je tiens à vous dire que tant que j'ai été député européen, j'avais le droit de correspondre et je ne vois pas pourquoi cet homme-là qui n'a tué personne, donc continue à croupir en prison, même si sur ce qu'il avait fait, je n'aurais sans doute pas été d'accord, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures aujourd'hui dans la question des droits de l'homme. Je dois dire de surcroît que Samir, lui, est un chef politique, il a été un chef de guerre, toutes les crapules ont été amnistiées, les gens qui ont fait les pires crimes ont été amnistiés, Samir Jaja, lui, incarne l'espérance d'un peuple. Mais là, bien sûr, est posé le problème de la politique française, et Jacques Chirac, au-delà de toutes nos divergences, s'honorerait tout de même, dans la continuité de la politique française au Liban pendant des siècles, d'exiger la libération de celui qui incarne aujourd'hui l'espérance de toute une jeunesse.
Alors, on va changer de sujet si vous voulez, Bernard, parce que je voudrais quand même vous titiller un petit peu sur un projet dont vous nous avez entretenu, dont vous avez entretenu vos amis depuis un certain temps, et qui est le projet du dictionnaire de la réplique. Alors, comme on pose souvent des questions sur le 2e tome des aventures d'un certain lieutenant Poignard, je ne vois pas pourquoi je ne me vengerai pas en vous posant à mon tour la question du 1er tome des aventures du dictionnaire de la réplique.
Ah ben, c'est sympathique, mais alors Serge, maintenant il faut écrire le 2e tome de cet excellent ouvrage que vous avez commis avec Alain Sanders, que je salue s'il m'entend tout à l'heure. Le dictionnaire de la réplique est réalisé, il est à l'imprimerie. Alors, quelle est l'idée de ce dictionnaire? Tout simplement, répliquer. Répliquer au lieu de commun, au mensonge, ce que vous faites, vous et Patrick et d'autres, à longueur de journée, mais fournir en quelque sorte une anthologie de la réplique. Une anthologie de la réplique, fournir, notre cible c'est celui-là, aux jeunes lycéens, aux jeunes étudiants, qui déjà un tout petit peu appris à lire, qui veut fourbir ses armes, à savoir décrocher des flèches. Je vais vous dire comment a surgi l'idée du dictionnaire de la réplique. C'est ma 3e fille, qui est maintenant professeure dans la région parisienne, et qui un jour, en classe de Cagnes, est venue me dire « Papa, le professeur d'histoire, nous a raconté Franco, allié d'Hitler, etc. » Bon, et je lui ai dit « Tu diras à ton professeur que Franco était surtout, après Pie XII, le plus grand sauveur de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. » Ma fille est repartie, elle a vu son professeur qui a dit « Mais enfin, qu'est-ce que votre père raconte ?» Et j'ai envoyé au professeur les références par exemple de la grande cérémonie annuelle à la synagogue de Brooklyn où l'on remercie Franco pour tout ce qu'il a fait. Voilà, c'était là l'idée que j'ai eue, donc de tordre le cou au canard, au mensonge, à la désinformation, et donc le projet n'était pas ambitieux, il ne s'agissait pas de faire une encyclopédie ou une contre-encyclopédie, encore moins un dictionnaire, mais de trouver autour de nous ce à quoi il fallait répliquer. Et j'ai réuni une équipe avec essentiellement d'abord Yves Daoudal, qui a été le maître d'œuvre de ce dictionnaire. J'en ai été le concepteur, le patron, si l'on veut, j'ai beaucoup travaillé moi-même, mais Yves a travaillé énormément, et je tiens ici à rendre hommage vraiment à tout ce travail qu'il a accompli. Mais il n'y a pas eu que Yves Daoudal, il y a eu Thierry Martin, qu'on connaît bien, Georges-Paul Wagner, Jeanne Smith du journal Présent, d'autres que j'oublie parce qu'on trouvera toutes leurs listes, donc dans l'introduction à ce dictionnaire de la réplique. Nous avons relevé 480 à peu près mensonges et lieux communs, et nous avons réfuté. Cela a été très difficile à faire. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte d'une chose d'ailleurs, c'est que l'homme de droite se met peu facilement dans la peau de l'adversaire. L'homme de droite est dogmatique. Alors moi, les dogmes, je les défends, mais en très petit nombre. Ce sont ceux du credo de ma religion. Pour le reste, je ne crois pas que l'on puisse prouver à un interlocuteur, même de bonne foi, que j'ai raison parce que Serge de Beketch pense la même chose. Vous voyez, Serge de Beketch dira « j'ai raison parce que Bernard Anthony pense la même chose ». Non, ça, il faut agir différemment. Il faut essayer d'utiliser les contradictions de l'adversaire. Il faut se mettre dans la peau de l'autre, et je crois qu'en général, nous ne le faisons pas suffisamment. Ça est un exercice très intéressant, parce que j'ai dû éliminer, mais ils me pardonnent tous, parce qu'ils sont gentils, beaucoup d'articles qui consistaient à de simples affirmations. Hein. Alors ça ne suffit pas. Nous avons été surtout chercher les références, et bien souvent les références chez des gens qui ne sont pas des nôtres. Et c'est cela qui est important aussi.
Alors, il sortira quand, ce dictionnaire de la réplique ?
Il va sortir, et vous en serez, pour le saluer, parce que naturellement, s'il y a bien un homme de réplique, c'est vous. Et je vais en dire d'ailleurs un mot, il sortira le dimanche 23 novembre, au domaine de Grand Maison, à Villepreux, dans les Yvelines. Domaine de Grand Maison, Villepreux, dimanche 23 novembre, de 11h à 19h. Il y aura surtout là une journée de rencontre, une journée de réplique. Il y aura d'ailleurs la réplique par le chant, avec le cœur montjoie. Il y aura la réplique par le dessin, avec nos dessinateurs. Il y aura la réplique par nos journaux. Et nous serons demain à travailler pour mieux bâtir encore cette journée. Mais je crois aussi que et la conjoncture est bonne, parce que vous voyez, si je vous parle de Toulouse, c'est que ce matin encore, j'étais dans le cabinet d'un juge d'instruction, très courtois, qui a enregistré nos plaintes de réplique contre les affreux petits rappeurs du groupe Sniper, contre les artisans de Sainte-Capote. Je dois dire que dans cette ville terrible de Toulouse, qui est soumise à tous les extrémismes, eh bien, la griffe a marqué beaucoup de points. Si bien que je crois que nous sommes vraiment dans cette conjoncture de la réplique et que tout ce que nous disons ce soir s'ordonne autour de ce projet. Mais je crois que demain, il va falloir peut-être prolonger notre dictionnaire. Nous en reparlerons en d'autres occasions. En tout cas, je crois que j'espère que vous trouverez, que les auditeurs de Radio Courtoisie qui feront l'acquisition de ce dictionnaire le trouveront bien fait. Nous sommes inquiets de la façon dont on le recevra, évidemment. Nous ne sommes pas orgueilleux, nous n'avons pas la prétention d'avoir réussi tous nos articles parfaitement, mais réellement, je crois que nous donnons des armes aux militants de la cause nationale, tout simplement d'ailleurs aux militants non-conformistes, à tous ceux qui refusent le bourrage de crâne, le lavage de cerveau des polices de la pensée.
En tout cas, on est sûr qu'il sera lu par nos adversaires.
Ah, ça, je suis bien persuadé qu'il sera lu attentivement par nos adversaires, mais vous savez, c'est justement là que je suis non pas un homme d'optimisme, l'optimisme est l'espérance des imbéciles, comme disait Bernanos, mais malgré tout un homme d'espérance. Le pire n'est jamais sûr, comme disait Jacques Bainville, et peut-être ce dictionnaire contribuera-t-il à convaincre, plus qu'à vaincre, à convertir. J'ai une anecdote à raconter là aux auditeurs de Radio Courtoisie. Ils ont souvent entendu un homme merveilleux qui nous a quittés, qui était Pierre Debré. Mais peu d'entre eux savent peut-être d'où venait Pierre Debré. Pierre Debré était un militant communiste. Il était un militant communiste, et un jour, il était même secrétaire de Maurice Thorez, un des grands historiques du Parti communiste. Celui-ci lui a dit un jour que Thorez était quand même avide d'une certaine culture, de savoir ce que pensaient ses adversaires. Il lui a dit, il faudrait que vous me fassiez un petit résumé de la pensée de saint Thomas d'Aquin et de Charles Maurras. Je voudrais connaître la pensée réactionnaire. Alors, le brave Pierre Debré, qui était un ouvrier, mais déjà très intelligent, très cultivé, s'est penché sur la somme de saint Thomas, il est allé au dictionnaire politique et critique de Maurras, et c'est comme ça qu'il est devenu thomiste maurassien, et qu'il a été un des grands parmi nous dans la résistance intellectuelle, culturelle, religieuse de notre temps.
C'est comme ça, et par mille autres moyens, Bernard Anthony, et vous êtes bien placé pour le savoir en tant que dirigeant du Front National, que nous avons déjà converti les trois quarts de l'électorat du Parti communiste.
Mais il faut ensuite parachever le travail. Et je crois que le dictionnaire de la réplique vise à charpenter en quelque sorte ce travail qui dans un premier temps est celui qui est accompli par un programme électoral, mais ensuite il faut mieux établir les fondations de la résistance.
Alors, vous avez dit un mot de l'activité de la griffe à propos de Sniper, et on en reparlera, si vous voulez, dans un futur proche. Je sais que Maître Georges-Paul Wagner va venir nous expliquer ce qu'il y a de nouveau dans les activités de la griffe depuis quelque temps. Et je voudrais simplement que vous disiez très brièvement, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, que vous rappeliez aux auditeurs et que vous appreniez à ceux qui ne le savent pas ce que c'est que la griffe et comment on peut participer à ces travaux.
Oui, alors Georges-Paul Wadner le fera très bien. Je précise d'ailleurs que Maître Georges-Paul Wadner, qui a été mon extraordinaire avocat, ne perdant jamais un seul procès, préside désormais les conférences du Centre Charlier, qui sont celles du Cercle d'amitié française de la région parisienne. Et notamment, il présidera au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, une conférence de Thierry Bouclier, qui vient de faire un livre très passionnant sur Titier Vignancourt. Alors je rappelle, le 14 novembre,
vous nous avez dit le 13 novembre, et nous l'avons imprimé tel quel dans le Libre Journal numéro 305.
Excusez-moi, c'est que je suis hors de toute documentation de l'endroit où je vous parle. Effectivement, le 12 est un mercredi, je crois, hein. Je serai peut-être chez vous d'ailleurs, et c'est le lendemain de Radio Courtoisie de votre émission. Donc c'est le 13 alors. Hein.
À 19h.
Oh, que Georges-Paul Wadner me pardonne cette bévue. Alors je redis le mercredi 13 novembre à 19h.
17 boulevard Saint-Germain.
Mais non, c'est 70. Alors on a fait une boulette chacun, un partout, la balle au centre.
Voilà, alors on recommence. Mais les auditeurs sont indulgents incroyablement. La griffe, bah, vous savez, comme son nom l'indique, elle était aussi dont un élément de réplique. Hein, la griffe, le symbole, en est très clair. Mais ce n'est pas une organisation d'hommes léopards. C'est tout simplement une organisation qui a décidé de montrer que les chrétiens se rebiffaient, qu'ils en avaient assez, les chrétiens, les Français, quelle que soit leur origine, hein, parce que nous n'hésiterons jamais à défendre un harki musulman s'il est agressé pour sa fidélité à la nation française. Les Français, quelle que soit leur origine, les chrétiens, quelle que soit leur race, bien évidemment. Alors voilà pourquoi l'Alliance Générale contre le racisme est pour le respect de l'identité française et chrétienne. Thème qui nous est cher, parce qu'on peut effectivement être agnostique, mais on ne peut pas aimer la France sans aimer donc ce passé chrétien qu'il a façonné, qu'il a forgé autour de ses monastères, de ses cathédrales. Eh bien, la griffe, c'était une réaction contre cette pauvre dame de Montpellier, jadis condamnée, elle avait un fils infirme, elle n'arrivait pas à boucler ses fins de mois, elle avait publié une petite annonce, donc demandant un locataire chrétien et français, qui ne serait pas trop différent donc, de ce qu'elle était. Elle fut condamnée sur plainte du MRAP pour cela. C'était une parfaite ignominie, parce que, évidemment, le MRAP n'aurait pas porté plainte contre une brave musulmane demandant un locataire musulman. Hein. Donc, nous nous sommes aperçus, à cette époque-là, que jamais l'AMRAP, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme n'avaient trouvé donc à instruire une cause de racisme anti-français ou anti-chrétien. À croire que les races existeraient, puisque nous serions seuls susceptibles de commettre le péché de racisme. Vous voyez, c'était un gag. Et depuis, nous avons bien bataillé avec Hélène Sabatier, notre secrétaire général, avec nos militants, nos adhérents qui sont admirables. Parce que sans les adhérents, nous ne tiendrions pas. Et nous avons un réseau de fidélité à travers le territoire qui est considérable, plus de 6000 adhérents aujourd'hui. Alors évidemment, si nous en avions le double, on pourrait faire deux fois plus de procès. Bon, et c'est ce qui fait que souvent des auditeurs de Radio Courtoisie m'écrivent en me disant « voyez telle chose abominable ». Et oui, mais nous ne pouvons tirer que les cartouches que nous avons et utiliser au mieux l'argent de nos adhérents. Avec nos avocats, il y a un comité directeur de la DRIF, bien sûr, mais les avocats y jouent le rôle essentiel. Alors, quel est ce comité? Il y a deux présidents d'honneur, puisque là, ils ne sont plus avocats. Maître Jean-Baptiste Biaggi, que je ne présenterai pas aux auditeurs de Radio Courtoisie, Georges-Paul Wadner, qui me suivra sur vos antennes, Valorant Saint-Just, Jacques Trémollet de Villers, Maître Le Griel, avocat à la Cour de cassation, bien d'autres encore en province, si bien que nous allons organiser le dimanche, le samedi des Rameaux, le 3 avril, et là je ne me trompe pas, le samedi des Rameaux, le 3 avril, une grande convention de la GRIF en la bonne ville d'Orange, dont je salue d'ailleurs le communiqué qu'elle vient de produire il y a une heure, annonçant que elle paierait dans le quoi qu'il en soit le congé du lundi de Pentecôte à son personnel, n'acceptant pas cette suppression du lundi de Pentecôte au moment où on ne cesse d'organiser des congés pour les fêtes des religions quand même étrangères à notre identité française.
Suppression qui n'est pas confirmée, hein, vous le...
Oui, je sais bien, mais il faut lutter contre cela, et je dois dire que la GRIF, comme Chrétienté Solidarité, et c'est l'ancien organisateur du pèlerinage de Chartres qui parle, et le fidèle de ce pèlerinage, bien entendu, qui dit qu'il est inadmissible de supprimer le lundi de Pentecôte. Et il y aurait d'autres choses que l'on pourrait supprimer.
Bernard, on est vraiment là pris par le temps,
oui,
parce que je dois interrompre cet enregistrement pour prendre l'antenne dans peu de minutes. Donc, je rappelle simplement l'adresse de la GRIF, c'est 70 boulevard Saint-Germain.
Voilà.
Et j'invite les auditeurs...
À Paris 5e.
J'invite les auditeurs à y adhérer. Le prix de l'adhésion est actuellement de combien ?
Eh bien, le prix de l'adhésion est actuellement de 10 euros.
Oui, donc c'est parmi deux. Donc, on vous reçoit alors là, en direct dans quelques semaines.
Oui, voilà.
Et avec grand plaisir. Et d'ici là...
Serge, je vous reçois, et vous aussi, Patrick, bien sûr, le dimanche 23 novembre à Villepreux, de 11h à 19h, au domaine de Grand Maison. On peut passer, d'ailleurs, prendre des dépliants pour cela, au 70 boulevard Saint-Germain, pour le lancement du dictionnaire de la réplique, et vous serez un des animateurs de cette journée, à titre de réciprocité et de camaraderie, de combat, cher Serge et cher Patrick.
Merci Bernard, à bientôt. Bien, et ben voilà, on a entendu Bernard Anthony, et qui a évoqué la situation, je l'ai dit, du Liban, enfin vous venez de l'entendre, la situation du Liban.
Le bilan
du Liban, c'est bien.
Vous m'avez dit de faire des mots, alors.
Non, mais voilà, vous êtes payé pour ça. Vous n'êtes pas obligé de faire des mots très bons, parce que vous n'êtes pas payé
très cher.
Et maintenant, nous recevons Laurent Lagartan pour son petit guide du Coran. Nous disions avec Bernard Anthony, nous évoquions avec Bernard Anthony le propos de Claude Imbert qui disait « je suis un petit peu islamophobe ». Vous avez remarqué que Bernard Anthony a dit que lui, il n'était pas du tout un petit peu islamophobe, ce qui est plutôt rassurant. Et je demanderai dans quelques minutes à M. Lagartan si sa lecture éclairée du Coran l'a rendu un petit peu, ou pas du tout un petit peu, islamophobe. Mais avant, nous avons la mission agréable de vous annoncer la réunion annuelle, le dîner annuel de Radio Courtoisie. Vous savez que ça sera le 16e anniversaire de ce dîner et de la radio par la même occasion, et que vous pourrez désigner Serge de Beketch comme... Non, pardon, vous pourrez désigner attribuer le prix de...
Le
prix d'Odev, c'est incroyable. On vient de parler de d'Odev pendant 10 minutes et le nom me sort de la tête. C'est tragique, hein. Le prix d'Odev...
Exiger d'être assis à la table de Serge de Beaudet.
Vous pourrez être assis à la table de qui vous voudrez. Voilà ce qu'on peut dire. Il faut dire autre chose, c'est que c'est vraiment une occasion sympathique de se rencontrer. Moi, j'ai fait faux bond pendant plusieurs années consécutives pour des raisons personnelles et incontournables, comme on dit maintenant. Mais j'ai très envie d'y aller cette année parce que j'espère qu'on comprendra enfin que depuis 16 ans, c'est vraiment scandaleux que on ait choisi des gens. Enfin, je sais pas, je veux pas faire ma campagne, mais enfin quand même, il y a un minimum, quoi. Bon, j'en fais beaucoup, vous trouvez, oui? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le marquis, vous qui avez le savoir-vivre?
Je sais pas, peut-être que vous avez envie d'y aller parce que la cuisine s'est améliorée, peut-être,
je sais pas. Ah, je sais pas, non, moi, je dîne avant, comme ça laisse du temps pour bavarder.
Ah, bah voilà.
Non, mais c'est très bien, en réalité, c'est très très bien.
Oui.
C'est... Et, ce que je voulais dire aussi, tiens, j'en profite puisque j'ai la parole.
Non, mais pour la régie est enchantée avec son bobineau à la main.
Non, mais on va donner la parole au bobineau. Oui. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que je rencontre des gens qui me disent, des auditeurs, de plus en plus souvent, qui me disent mais comment vous faites? Mais d'où vient l'argent? Parce que il y a des gens qui sont absolument incapables de se mettre dans la tête que ce qu'on dit est vrai. Mais quand on dit cette radio ne vit que des cotisations de ses adhérents, c'est tout simplement la vérité. Il n'y a pas un sou qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, de qui pourrait-il venir, le sou? Il n'y a pas de publicité derrière. Donc, j'en profite pour dire que si vous écoutez cette radio, c'est déjà très 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 bien. C'est vraiment sympathique. Mais ce qui serait bien, c'est de penser que quand vous ouvrez un robinet, que vous faites couler de l'eau, vous payez cette eau. Quand vous allumez l'électricité, vous payez l'électricité. Quand vous allumez Radio Courtoisie, vous pouvez en profiter sans payer. Personne ne viendra frapper à votre porte pour réclamer du fric. Donc il faut accomplir ce geste extraordinairement rare aujourd'hui, qui est de prendre son carnet de chèques, si on en a encore un,
qui n'est pas droit,
si on a le droit d'en avoir un, et d'envoyer un chèque d'adhésion à Radio Courtoisie, parce que vraiment, c'est avec ça qu'on paye l'électricité, pas le gaz, parce qu'on n'a pas une radio qui marche au gaz, mais les locaux, et puis les frais de retransmission qui sont...
puis on en a marre d'être mal assis.
Et puis on pourrait s'acheter des fauteuils. Voilà,
j'allais dire qu'effectivement, ceux qui n'ont pas de chèque pourraient éventuellement envoyer des fauteuils. Parce que quand on voit...
Donnez
de quoi acheter des fauteuils. Mais quand on voit sur quoi nous sommes assis, c'est quand même un scandale depuis tant que ça dure.
Il y a des tas de radios, ils sont assis sur autre chose et c'est peut-être plus confortable pour la carrière, mais pas pour le...
N'envoyez pas de fauteuils, chers auditeurs. C'était une plaisanterie de Jean-Paul Leperlier. Par contre, vous pouvez envoyer un chèque. Et ce qui devrait vous y encourager, et je pense qu'on peut conclure par là avant d'envoyer effectivement le bobineau, ce n'est pas seulement l'état des fauteuils, c'est le fait que c'est une des rares choses que vous n'êtes pas obligé de faire, que vous êtes complètement libre de faire.
C'est l'impôt maestro volontaire. Yes.
Le 21 novembre, nous célébrerons le 16e anniversaire de Radio Courtoisie. Nous fêterons ensemble la langue française. Vendredi 21 novembre, si vous êtes adhérent de notre association, venez dîner avec nous à la Maison de la Mutualité. Nous élirons le lauréat du prix Dodé. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 45 euros par couvert à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au vendredi 21 novembre à 20h à la Mutualité, pour dîner ensemble et décerner le prix Dodé 2003, 16e anniversaire de Radio Courtoisie.
Voilà le rendez-vous pour ce 16e dîner de Radio Courtoisie, attribution du prix Dodé. N'hésitez pas à venir si vous êtes adhérent. Alors le truc, c'est de commencer par adhérer. Ensuite, vous avez le droit de venir dîner. Autrement, ma cache bono, vous avez juste le droit de venir applaudir à la sortie.
Le droit de venir dîner avec nous.
Laurent Lagartempe, rebonsoir.
Bonsoir.
Comme je l'ai annoncé, vous êtes l'auteur d'un petit guide du Coran. Et alors, la première question, c'est la question classique. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à ce sujet? Parce que vous n'êtes pas musulman vous-même. Non.
Non.
Vous savez qu'à la radio, on n'entend pas les mouvements de tête. Parce que je me fais un nom, un nom catégorique, mais de la tête. Donc.
C'est une restriction mentale, alors.
Et donc, comment avez-vous été amené à vous intéresser au Coran?
Eh bien, écoutez, pour relier le propos avec ce que vous disiez au début, c'est un peu une histoire de naïveté. J'ai entendu dire à un moment donné par un illustre représentant des autorités musulmanes que le Coran était un monument à la fraternité des hommes et à la paix du monde. Oh, je me suis dit, peut-être, après tout, pourquoi pas. Mais enfin, je n'avais jamais lu le Coran. Je m'en excuse d'ailleurs parce que j'ai vécu quand même un pays musulman, j'ai eu aussi des amis musulmans moi aussi. Et on lit des choses, on lit des articles, on lit des exégèses, on lit des choses qui sont écrites de très haut, n'est-ce pas, souvent. Et on néglige de lire le Coran. Alors je me suis dit, je savais quand même un peu ce qu'il y avait dedans, et je savais que c'était quand même assez loin de ce que disait ce monsieur, et je me suis dit, c'est pas possible. Ce monsieur ayant dit ça devant les médias nationaux, personne n'a relevé la moindre chose. Je veux en avoir le cœur net. Et je m'y suis mis. Alors là, à propos du Coran, il se pose, si vous voulez, quelques paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que justement, on en parle tellement, enfin tout le monde a en tête ce livre, le Coran, et si on faisait le compte de ceux qui l'ont lu, non pas de ceux qui l'ont acheté, parce que je crois que quand même il y a beaucoup de gens qui l'achètent, mais qui l'ont lu et en plus compris, je crois qu'on arriverait à un tout petit pourcentage. Alors c'est déjà un premier paradoxe.
Moi je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai pas compris déjà.
Je l'ai acheté, je l'ai lu, et puis j'ai honte de dire que je l'ai apprécié. J'aurais bien voulu que notre... parfois il y a des textes aussi musclés chez nous, par exemple.
Ah bon?
Oui, bien sûr. Alors je l'apprécie pas en tant que qu'étant dans le camp d'en face, mais je me dis que pour les gens qui ont cette arme-là, c'est pas plus mal.
Ah, ils ont une arme très forte, oui. Voilà, c'est très fort, oui. Ça, de ce point de vue-là, c'est très fort.
Que nous soyons aussi armés, capables de rejeter l'autre aussi bien qu'ils sont capables de le faire.
Oui, mais vous avez raté le Nouveau Testament, vous, là, visiblement.
Je veux dire, moi, je l'ai lu, je suis parti en Coran pour aller vite me retourner vers les anciennes écritures.
Alors, mais c'est pas étonnant, pardon, c'est pas oui, étonnant c'est très intéressant, d'ailleurs, ce que dit Jean-Paul. L'appréciation de Jean-Paul Le Perrier est fort intéressante parce que Jean-Paul, pour ceux qui ne le connaissent pas, je le dis, il va pas se formaliser que je le dise comme ça, c'est un guerrier.
Oui, j'ai compris, au sens
ancien du terme, il n'a pas beaucoup de, enfin, je ne dirais pas qu'il n'a pas beaucoup de préoccupations métaphysiques, parce que ça, j'en sais rien. Mais disons qu'il n'appartient pas à la sphère, comme on dit maintenant, de la catholicité marchante. On n'est pas dans le catholicisme progressif.
Il ne tend pas la joue gauche.
Non, je ne suis pas du catholicisme progressif. Ni du catholicisme qui est le vôtre, d'ailleurs, mais puisque je suis païen.
Même pas méchant.
Vous savez, mais cela dit, encore récemment, je prenais la parole chez Olyndre pour souligner, comme je l'ai déjà fait ici, que la religion catholique traditionnaliste est la dernière force de survie, la dernière force de vie quand même, à travers les valeurs qu'elle défend, dans un monde qui s'écroule, dans un monde de mort. Et ça, je l'ai dit, je le maintiens.
Ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant de voir qu'un païen, un païen déclaré, affirmé, dit le Coran est une bonne arme spirituelle.
C'est pas une arme spirituelle, c'est une arme de guerre. pour souligner ça, d'ailleurs, on aura l'occasion de dire que j'ai fait des décomptes là-dedans, parce que la raison, d'ailleurs, de ces décomptes, c'est qu'il y a... des répétitions continuelles dans ce livre. Bon, alors a priori on se dit mais comment peuvent-ils répéter les choses aussi souvent et aussi véhémentement. C'est là où ça rejoint un peu votre remarque, c'est que la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a des phrases là-dedans qui sont véhémentes, qui sont violentes, qui sont agressives, et j'en ai fait le compte, c'est quelques 600 versets, si vous voulez, sur les 6000 et quelques 6238 versets, eh bien il y en a à peu près 10% qui sont des insultes violentes contre quelque chose, contre quelqu'un.
Et là, ça amène immédiatement une question, parce que le Coran, comme tout le monde le sait, n'a pas été écrit en français. Donc, ce à quoi vous avez accédé, ce sont des traductions.
Absolument.
Et donc, quand vous dites que les propos que vous y avez lus sont des propos agressifs ou des incitations à la guerre, je prendrai un exemple. Quand on parle de djihad, on parle de guerre sainte, on traduit ça par guerre sainte, mais les musulmans... ouvrez les guillemets, modérés, fermez les guillemets, nous explique, en réalité, c'est un malentendu. Nous, quand nous parlons de djihad, nous parlons de la guerre que l'homme doit mener contre ses bas instincts, contre ses tendances mauvaises, et donc c'est une guerre individuelle, c'est une guerre spirituelle contre soi-même, contre sa partie d'ombre.
Ils traduisent même par effort, parfois.
Parfois,
oui, je fais le point tout de suite là-dessus.
Faisons le point sur les traductions.
Vous avez toute raison de parler de cette chose-là. Et c'est effectivement ce qu'on déclare couramment, et on appuie cette thèse en disant, etc. Je puis vous dire que dans le Coran, il y a à peu près, quelque chose comme 400 versets qui font partie de ce qu'on appelle le djihad, c'est-à-dire des développements sur le djihad. Je n'ai pas trouvé un seul verset qui coïncide avec ce que vous dites, qui est ce djihad spirituel, ce djihad, cet effort sur soi-même, ça n'existe pas dans le Coran. Alors, ça existe dans la tradition musulmane, mais ce sont des commentaires, des hadiths qui ont été émis deux ou trois siècles après le Coran. Dans le Coran, ça n'existe pas. Dans le Coran, il y a le djihad qui est tout simplement la guerre. Et il ne faut pas dire la guerre sainte parce que guerre sainte, c'est un mot qui vient des croisades. Or, le djihad, lui, date de quatre siècles avant les croisades, n'est-ce pas ? Alors, c'est une assimilation qui n'est pas à faire. C'est pas une guerre sainte. Le djihad, c'est quelque chose de plus complexe que cela. C'est quelque chose d'implacable qui est, si vous voulez, conquérir le monde entier pour le convertir ou supprimer ceux qui ne veulent pas se convertir. Voilà ce qu'est le djihad. Assorti, évidemment, de ces mesures dont on pourrait parler abondamment, qui sont la dhimmitude, c'est-à-dire l'obligation, indépendamment de l'obligation du sabre, l'obligation du fisc. Et c'est comme ça qu'ils ont, dans les pays conquis, ils convertissent, n'est-ce pas ? Donc le djihad, une fois pour toutes, le djihad dans le Coran, c'est la guerre.
Qu'est-ce que vous entendez par le fisc ?
Eh bien, la dhimmitude, si vous voulez, c'est la condition que l'on fait aux populations des pays conquis, qui sont en général des chrétiens, évidemment, dans l'histoire, et le traitement qu'on leur applique. Alors on leur dit, maintenant vous êtes protégés. Être protégé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que...
Maintenant vous êtes protégés.
Voilà, exactement, c'est une histoire de mafia. C'est-à-dire que vous n'êtes pas protégés par l'État. Il faut que vous ayez un protecteur. Donc vous êtes obligé de vous soumettre à quelqu'un qui est musulman et qui, lui, va vous assaisonner à ça.
Et alors l'État... Vous devenez un dhimmi, c'est-à-dire voilà. Un citoyen de seconde.
Voilà. Et alors, la dhimmitude, d'autre part, le dhimmi, lui, est soumis à un impôt d'État spécifique sur les incroyants.
D'accord.
Mais enfin, tout ça, ce n'est pas tellement dans le Coran, parce que ce principe de 10 minutes a été élaboré après. Mais le djihad, lui, oui.
Mais on citait tout à l'heure la couverture de la une de minutes qui nous dit « Le Coran n'oblige à rien », à propos du voile, par exemple. Et quelle est votre réaction?
Alors là, il n'y a que des obligations dans le Coran, alors... Alors le voile, bon, parlons du voile, on en parle de façon tellement superficielle que c'est affligeant. Il faut voir ce que signifie le voile. Le voile, c'est un étendard, n'est-ce pas ? C'est une oriflamme, c'est un drapeau. Et que veut dire ce drapeau ? Bien, la femme musulmane qui arbore ce drapeau, elle cautionne tout ce qu'il y a dans la charia. Par exemple, j'ai sous les yeux ici infériorité ontologique de la femme. Dieu ordonne aux garçons une part pour deux filles, etc. Quand un homme meurt qui n'a pas d'enfant, etc. Les hommes ont autorité sur les femmes. Polygamie, droit martial.
Saint Paul disait la même chose, hein. Les hommes ont autorité sur les femmes.
Oui, non, mais là, vous y allez un peu fort. Droit marital personnel de punir l'épouse. Droit régalien de l'époux. Je pourrais vous citer j'ai ici la liste des versets précis dans les sourates, puisque c'est ce que j'ai fait, si vous voulez, de récapituler tous les versets qui se rapportent à un même sujet. Alors ça, c'est pas un petit travail.
C'est une remise en ordre, en quelque sorte.
C'est pas un petit travail, parce que figurez-vous que les 6238 versets du Coran, c'est à peu près comme des pièces d'un puzzle étalées sur une table. Donc vous n'y comprenez rien.
Ah ben c'est ça.
Et vous vous rendez pas compte, parce
maintenant,
que
je comprends pourquoi j'avais pas compris.
Tout ça est énoncé absolument en pagaille, n'est-ce pas ? Alors, si vous prenez le temps, et je vous assure que je n'aime pas les puzzles, eh bien, je m'y suis mis quand même. Et donc, je rassemble les versets qui se rapportent à un certain nombre de sujets après avoir trié mes thèmes. Par exemple, qu'est-ce que le Coran dit des Juifs ? Qu'est-ce qu'il dit des chrétiens ? Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il a récupéré de l'Évangile ? Qu'est-ce qu'il a récupéré de l'Exode ? Qu'est-ce qu'il dit du djihad ? Qu'est-ce qu'il dit de la charia ?
Bon. Est-ce que ce travail, monsieur, n'a pas été l'occasion pour vous de relever des contradictions ? Parce que je ne suis pas un connaisseur du Coran, mais moi, ce qu'on me jette, la sourate qu'on me jette fréquemment à la figure, c'est pas de, je crois que c'est 248 ou 251, c'est pas de contrainte en religion.
Oui, 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 non, mais ça, il faut voir. Je ne peux pas vous ressortir, je connais ce verset, mais je puis vous dire qu'en ce qui concerne les contradictions, je n'en ai pour ainsi dire pas trouvé. Sauf, par exemple, à propos des boissons alcoolisées, il y a un ou deux versets qui vous disent que Dieu a fait ces boissons pour le plaisir de l'homme, etc. Puis vous avez 4 ou 5 autres versets qui vous disent « Ah, c'est pas bien, il faut pas boire, etc. » Bon, là, il y a une petite contradiction, vous savez. Et d'autre part, dans le paradis, alors là, on aura le droit de boire des boissons alcoolisées parce qu'on ne se saoulera pas, en somme. Elles ne sont pas enivrantes, voilà.
Mais à quoi ça sert, alors?
Il y a des petites choses comme ça, oui. Ah ben si, parce que c'est bon
c'est
de boire.
C'est pas bourré, à quoi ça sert de boire?
Bon, alors, vous voyez, alors, à part ça, vous avez d'autres contradictions plus importantes, apparentes. Par exemple, vous avez quelques versets qui ont l'air d'être accueillants vis-à-vis des chrétiens. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux chrétiens. Parce qu'il faut dire que le Coran, c'est quelque chose de parlé. C'est un discours prosélyte, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez toujours un orateur qui s'adresse à un auditoire. Et l'orateur s'adresse à l'auditoire... j'ai perdu le fil de...
Vous disiez que le Coran est un discours prosélyte qui donc...
Oui, oui, absolument. Mais un discours prosélyte violent.
C'est ça.
Voilà.
Allez-y. Non, je croyais que vous vouliez dire quelque chose, pardon.
Ben oui,
je voulais en venir à la méthode.
Pardon. Oui, oui, d'accord.
Parce que la méthode me paraît...
C'est ça l'essentiel, oui, c'est ça l'essentiel.
Le contenu, bon, ben, je pense que les auditeurs qui sont intéressés le liront, et notre objectif ce soir, c'est de leur montrer en quoi votre livre est vraiment très original par rapport à d'autres travaux qui ont été faits sur le Coran. Alors, je disais que vous avez choisi 4 itinéraires.
Oui.
Les mots, les thèmes, les valeurs et les origines. Alors d'abord, on peut s'étonner d'ailleurs que de cet ordre, parce que...
Si, parce qu'il est important de mettre l'accent sur le sens des mots, parce qu'on joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que beaucoup de traductions, dans beaucoup d'endroits, font une atténuation de sens, si vous voulez.
C'est très frappant dans cette dans ce chapitre.
Et vous avez, par exemple, le mot essentiel qui est « kafir ». Kafir, pluriel « kafirun ».
C'est l'infidèle.
C'est l'infidèle. C'est traduit en général par « incroyant ». Mais vous avez une note de Denise Masson, par exemple, qui un paragraphe entier qui développe ceci, disant que ce kafir, les kafirun, c'est vraiment le péché fondamental qui fait que Dieu ne peut absolument pas pardonner. Enfin, c'est le péché fondamental. Mm-hmm. Donc, c'est le mot de détestation le plus fort. Alors, le traduire par
c'est
incroyant,
il y a même des
auteurs qui traduisent par incrédule. C'est très faible. Alors, incrédule, incroyant, mais en réalité, c'est mécréant,
ce petit.
Et vous avez, et même, ça serait ce qu'on entend dans la rue, n'est-ce pas, chien de païen. Voilà.
Oui, c'est le maudit.
C'est le maudit, voilà. Donc, vous voyez, l'atténuation, il est important, les mots. Alors, autre problème de mots. Vous savez, Mahomet. On penserait...
Ah, ça, c'est très intéressant, oui, effectivement,
mais
ce
oui.
passage de votre...
On penserait, et quand vous avez lu l'Évangile, Jésus est à chaque pas dans l'Évangile, quand vous lisez l'Exode, c'est Moïse qui est là, on pourrait penser que dans le Coran, Mohamed soit aussi présent que dans... Eh bien, il n'y a pas de trace de Mohamed dans le Coran. Il y a à 5 reprises une mention HMD. Alors là, il faut voir les Bruno Bonnemar et ceux qui connaissent bien l'arabe, l'araméen, etc. Et l'hébreu, parce que c'est un mot qui vient de l'hébreu. Et ce HMD est tout simplement un qualificatif qui a été ensuite magnifié, si vous voulez, en substantif, quoi, en nom. En somme, c'est un surnom, comme on dirait Charles le Téméraire ou etc. Tous ces suppléments de noms qu'on a
le grand Christ loin du Seigneur.
Alors, il y a une sourate qui est intitulée Mohamed, mais ça n'a pas plus de sens non plus parce que toutes les sourates ont reçu leur titre. Je crois que c'est 3 ou 4 siècles après les événements. Donc ça...
Mohamed ou Mahomet.
Ouais, mais c'est la même chose. Question de prononcer.
Voilà.
Donc vous voulez dire que le personnage central n'existe pas dans le Coran.
Non.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'a jamais existé historiquement, alors?
Ah, ben alors ça, c'est la quatrième partie.
Voilà.
Bon. Et dans la quatrième partie, j'ai pu utiliser des travaux les plus récents, en particulier un certain professeur d'arabe, donc, de l'université d'Aix, qui s'appelle Depremar, qui vient de publier un livre en 2002, qui était juste à point pour que je m'en serve pour cette quatrième partie, qui alors, très tranquillement, a fait l'exégèse de tas de choses de cette époque qui montrent qu'il n'y a pas de traces de la légende, si vous voulez. C'est une pure légende.
Alors donc, le premier chapitre est consacré à un défrichage du vocabulaire du Coran.
Quelques mots, mais important.
On voit bien votre méthode de travail. Donc vous nous dites, voilà ce qu'il faut entendre quand tel mot est employé. Et le deuxième chapitre,
ce sont les thèmes.
Le deuxième chapitre, c'est l'itinéraire des thèmes. Donc c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Voilà. Je vous disais, c'est un langage parlé. Alors on s'adresse aux gens en disant, faites-leur ceci, dis-leur ceci, s'ils font pas ça, ils vont avoir telle punition, etc. Alors on se dit, quand on lit le livre, on se dit, mais qui sont ces les, ces ils, ces eux, etc. Il faut savoir. Alors il faut lire plusieurs fois, on s'aperçoit que parce qu'il faut bien voir que l'ensemble des 114 sourates, si vous voulez, ce sont en somme 114 homélies. Ce sont des orateurs qui parlent tout simplement à un auditoire. Et donc, la caractéristique de ceci, c'est qu'on s'adresse à des gens. Alors à qui ? Alors j'en ai fait le recensement, on arrive à comprendre, malgré la confusion du texte, que de temps en temps, vous avez des séquences de versets qui s'adressent aux juifs, des séquences de versets qui s'adressent aux chrétiens, d'autres qui s'adressent aux païens et bédouins, c'est-à-dire à leurs copains qui sont encore à Chameliers, quoi, etc. Alors j'ai détecté comme ça 9 thèmes, et systématiquement, si vous voulez, j'ai repéré les endroits où on parlait de ces thèmes, et je les signale dans mon livre, donc, vous avez ces thèmes. Alors par exemple, pour Moïse, vous avez environ 400 versets qui parlent de Moïse. Bon, mais ces 400 versets sont répartis dans 10-12 sourates. Hein. Donc j'ai récapitulé tout ce qui était dans les diverses sourates et je les ai réunis.
Et ça n'avait jamais été fait par personne.
Écoutez, moi j'ai pas vu. Hein. Bon, donc c'est très simple, c'est une démarche de l'homme de la rue, si j'ose dire. Hein. Et je réclame d'ailleurs cette approche, parce que je ne suis ni arabisant, ni grand connaisseur de l'islam. J'ai abordé ce livre comme quelqu'un qui aborde un livre et dit, bon, qu'est-ce que c'est après tout ?
Comme on démonte un réveil pour savoir comment ça fonctionne.
Exactement. C'est un livre qui fait 300 et quelques pages. Enfin, c'est quand même pas la mer à boire d'en venir à vous.
En plus, il est très facile. D'ailleurs, même moi, j'y suis arrivé. Alors, donc,
Chose en ce qui concerne Jean-Paul Le Pernier. La malhonnêteté des gens qui atténuent le langage méprisant employé vis-à-vis des chrétiens. Il faut voir par quoi s'est traduit dans les actes au cours de l'histoire le mépris qu'ils ont des chrétiens. Il faut quand même se rappeler qu'en Méditerranée, pendant des siècles, depuis que Isabelle la catholique a chassé les Maures d'Espagne, ils n'ont jamais eu d'autre activité, notamment au bénéfice des Turcs qui occupaient tout le pays d'Afrique du Nord. Ils n'ont jamais eu d'autre activité que la chasse des chrétiens qu'on venait chercher jusque sur les côtes où on rasait parfois 4000 chrétiens dans la journée et qui étaient transformés en esclaves.
Absolument.
Les rois de France, de génération en génération, n'ont pas cessé de faire des expéditions contre Alger en disant « Rendez-nous nos sujets rendus en esclavage ». Il y avait des bagnes de chrétiens à Alger où il y avait jusqu'à 45 000 chrétiens à la fois qui étaient attelés à des charrues, etc., comme des bêtes, qu'on allait vendre ensuite à Constantinople, où ils étaient élevés comme on élève du bétail, on les faisait se reproduire, ils ignoraient à la naissance qu'ils étaient fils de chrétiens, on leur faisait croire qu'ils étaient musulmans, on leur faisait des chiens de guerre qui étaient des janissaires qu'on envoyait combattre d'autres chrétiens en Hongrie, etc. C'est de cette manière qu'ils étaient traités. Hein, comment voir ce mépris se manifester ?
Alors je vous cite quelques passages. Par exemple, moi c'est ce que j'ai appelé les versets colériques. C'est 600 versets, n'est-ce pas ? Je l'ai appelé les versets colériques. Alors vous allez voir. À eux le tourment, qualifié selon les cas de sans bornes, d'affreux, de terribles, de honteux, qu'ils soient les hôtes du feu, de la combustion, de la fournaise, de la géhenne, ils sont dignes des pires insultes, ils sont comme des singes que l'on rejette. Alors chaque fois je peux vous donner la référence, comme des bêtes, stupides, aveugles, à humilier, etc., etc. Qu'ils meurent de rage, soient taillés en pièces, détruits, jetez l'effroi dans leur cœur, combattez les clients de Satan, saisissez-les, tuez-les où que vous les trouviez, leur salaire sera d'être tués et crucifiés, d'avoir une main et le pied opposé coupés, etc., etc. Vous en avez 600 comme ça. Hein.
Comme disent nos hommes politiques.
Je voulais terminer sur ma sainte colère, si possible. Oui. Puis-je encore parler ?
30 secondes,
très bien. Louis XIV a fait 3 expéditions contre Alger pour essayer de récupérer les chrétiens en esclavage, pour montrer le mépris. Lorsque la flotte française est arrivée en disant simplement « Rendez-nous les chrétiens, sinon nous vous bombardons, etc. » Ils prennent le vieil ambassadeur de France qui avait près de 80 ans. Ils l'attachent sur la bouche d'un canon. Ils prennent une vingtaine d'esclaves qu'ils attachent devant les bouches des canons et tirent à travers en voyant la viande chrétienne sur les bateaux français. Deuxième expédition de Louis XIV. À nouveau, le consul de France, un autre bien sûr. 40 esclaves cette fois-ci et à chaque fois ils augmentaient le nombre. C'était vraiment de la viande. C'était le mépris le plus total. Et tout ça était fait, n'oublions pas, par les Turcs, qui dominaient Alger. Cette Turquie dont on voudrait qu'aujourd'hui elle devienne européenne.
Deux minutes de suspension. Nous reprenons la parole après la coupure traditionnelle de 19h30. Laurent Lacartan, vous êtes donc l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Petit Guide du Coran et qui nous propose de suivre le guide sur quatre itinéraires. L'itinéraire des mots, l'itinéraire des thèmes, on vient d'en parler, et puis l'itinéraire des valeurs et l'itinéraire des origines. C'est un livre qui est paru aux éditions Concept, C-O-N-S-E-P. Donc l'itinéraire des valeurs, c'est donc avec la méthode que vous avez utilisée depuis le début de votre travail, aussi bien pour les mots que pour les thèmes, le résultat d'une remise en ordre du puzzle que constitue le Coran pour faire sortir, pour mettre en évidence les valeurs que véhicule ce texte. Mmh. Valeurs au sens qu'on donne aujourd'hui à ce mot... C'est-à-dire les impératifs, en quelque sorte.
Alors, ce que je voudrais dire avant de passer aux valeurs, c'est que sur les thèmes, si vous voulez, je voudrais souligner le caractère utile de cette compilation pour celui. En somme, mon objectif n'est pas du tout de substituer mon livre au Coran. Au contraire, moi, je dis lisez le Coran, étudiez le Coran, parce que quand on veut bien connaître son adversaire, il faut le connaître au bon endroit. Et le meilleur moyen de connaître les musulmans, c'est de connaître le Coran. Seulement, il y a cet obstacle énorme que on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans exactement, parce que on vous dit il y a des contradictions, on vous dit ah mais non, il y a des versets qui se compensent, etc., etc. Enfin, on tourne autour du pot. Les gens qui sont très compétents, donc, ne vous disent pas la vérité. Ils ont des amis musulmans, ils ne veulent pas les froisser, etc., etc. Donc moi je dis, lisez le Coran, achetez cette traduction de Jean Grosjean, vous en aurez pour 7 ou 8 euros, n'est-ce pas, parce que c'est un petit bouquin de poche, que vous pouvez trouver à l'Institut du Monde Arabe, c'est ce que j'ai fait, quand je me suis dit, moi, à propos de ce problème de mots, bon, je ne suis pas arabisant, pauvre non-arabisant, moi, qu'est-ce que je vais comprendre? On me dit, ah, mais dans telle traduction, c'est pas la même chose que dans celle-là. Je suis allé à l'Institut du Monde Arabe, je me suis dit, quelle est la traduction que l'on vend? Et j'ai trouvé une traduction, celle de Jean Grosjean. Bon. J'ai vu sur la jaquette que M. Tahar Ben Jelloun disait que c'était magnifique. L'Institut du Monde Arabe et l'Azhar d'Égypte, qui est une autorité, dit c'est merveilleux, c'est, la lettre et la forme, c'est exact. Je dis, pan, je prends ça, moi, c'est le texte. Et j'ai pris ce texte. Donc je dis la même chose aux gens. Et j'ose dire que je pense, moi, que peut-être 80% des musulmans ne savent pas très bien ce qu'il y a dans leur Coran. Et je lui ai dit rien, moi. Achetez le Coran, achetez mon petit guide et vous verrez ce qu'il y a dedans.
Est-ce que vous pouvez préciser les références d'une question à ce sujet-là? Donc de Jean Grosjean?
Jean Grosjean, oui, c'est...
Ça s'appelle le Coran,
c'est une traduction.
Oui. À mon avis, c'est loin d'être... C'est une traduction utile pour votre travail, mais c'est très loin d'être la meilleure.
C'est la dernière. Ah, mais oui, mais c'est la meilleure aux yeux des Arabes.
Oui, bien sûr, aux yeux des Arabes, mais aux yeux des gens qui s'intéressent au Coran, vraiment, des Occidentaux, Français, catholiques, celle de Masson, certainement.
Alors, il y a eu une dynastie.
Un magnifique travail qui est en cours de réalisation par le frère Bruno Bonnet.
Absolument.
Saint-Parlez-Vaude, qui est un travail formidable. Alors là,
Mais Serge Becquet, ce travail-là, il sera d'un abord difficile.
Voilà. Oui, c'est bien sûr.
Donc, ça n'est pas quand même
d'une richesse extraordinaire. Une nouveauté extraordinaire.
Moi, il y a une dynastie, si vous voulez. Il y a les traductions de Blacher, qui sont un peu anciennes. Denise Masson a travaillé dans cette lignée, elle le dit elle-même. Et sa traduction a l'avantage d'avoir peut-être 2 milliers de notes qui sont formidables. Alors si on a le temps, ceux qui veulent avoir le temps de compulser ça, c'est merveilleux. Et puis vous avez Jean Grosjean, dont les musulmans eux-mêmes disent c'est merveilleux, c'est ça, c'est la poésie arabe, c'est tout. Ouais. Bon, alors très bien, moi je dis, puisque c'est ça qui est bon, ça doit être ça qu'il faut étudier.
Mais moi je crois que c'est intéressant aussi d'étudier celle du frère Bruno Bonnet-Aimard pour l'excellente raison inverse, que les musulmans disent, ah là là, quelle abomination, quelle horreur.
C'est le Coran catholique.
Non, c'est pas ça.
Oui, mais c'est dit la vérité. Mais elle est très savante. Elle est très savante.
Ça les enquiquine pas mal. Bien.
Alors revenons aux valeurs.
J'ai beaucoup de temps, je voudrais qu'on vienne aux valeurs et ensuite aux origines.
Alors je voudrais rendre hommage au père Boussali qui, vous savez, est décédé il y a quelques mois, je crois. Et donc, je lui dois beaucoup parce que je lui avais soumis mes premiers textes et il m'avait vivement encouragé. Et c'est lui, en somme, qui m'a appuyé auprès des éditions de Paris pour cette édition. Donc, il m'a encouragé. Moi, j'avais commencé un texte, si vous voulez, ne pensant même pas que je serais édité, parce que bon, je suis un inconnu, et je n'ai aucune qualité pour ça, si vous voulez. Et le père Moussali, vraiment, m'a encouragé. Alors, ce troisième itinéraire, qui est l'itinéraire des valeurs, j'ai pillé le père Moussali, si vous voulez. Je suis loin d'avoir tout.
Mais qui est un expert.
Qui est un expert. Il a écrit comparaison des valeurs juives, chrétiennes et musulmanes. Il faut être déjà costaud pour faire ça. Hein. Donc, j'ai utilisé surtout une partie de ce que a fait Moussali dans cet itinéraire des valeurs. J'en dis un mot pour simplement, si vous voulez, situer le problème. C'est que on appelle valeur, nous, un ensemble de règles, de références éthiques, si vous voulez, que l'on peut adapter, que l'on peut interpréter, etc. Tu ne tueras point, etc. Bon. Et on se demande à ce sujet si ce qu'énonce la charia, ce qu'énonce le Coran, ce sont bien des valeurs. Et en réalité, ce ne sont pas des valeurs parce que ce sont des normes. Tout ce qui est charia, on dit, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, etc. Ce ne sont pas des valeurs, ce sont des normes, et qui plus est, ce sont des normes sacrées, donc intangibles. Alors on ne va pas parler de valeurs. Et on retrouve ça, si vous voulez, à propos, par exemple, des droits de l'homme, c'est-à-dire que, bon, dans certains congrès, c'est le père Moussali qui dit ça d'ailleurs, vous avez eu des musulmans qui ont développé les droits de l'homme musulman. Alors on dit, d'accord, les droits de l'homme, à condition que ça ne contredise pas ce qu'il y a dans le Coran. Voilà, terminé, puisque ce qu'il y a dans le Coran,
c'est... Je vous dirais que chez les catholiques, c'est aussi un petit peu ça. C'est les droits de l'homme, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec le décalogue, ça me paraît quand même élémentaire.
Oui, mais le décalogue, c'est quand même des principes, des valeurs, justement. Tu ne tueras point, etc., etc.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est naturel qu'une religion oblige ses adeptes et ses fidèles à observer...
Entre valeurs et normes, c'est rien. Ce sont des normes juridiques, des principes juridiques. Une norme, c'est par exemple, vous devez la priorité à droite. Mmh. Bon, ben dans le Coran, vous avez des trucs comme ça.
Oui.
C'est pas des valeurs, si vous voulez. Hein? Ce qui est valeur en France n'est pas valeur en Angleterre, là. Alors,
ce qu'il faut relever. Les 10 commandements sont aussi très stricts. Le droit de recherche, tu ne prends pas comme un vierge
violemment. La loi le code Napoléon ne permet pas de tuer et renforce l'autorité paternelle. C'est parallèle au décalogue.
Non, mais respecte ton père et ta mère, c'est une valeur. Voilà. C'est pas une norme. C'est pas, dans tel cas, tu fais ceci, dans tel cas, tu fais cela. C'est pas une norme.
Voilà, ça, c'est une norme. Le stop, c'est une norme. Papa, maman, c'est une valeur.
Alors, les origines. Message d'auditeur.
Attendez, on va terminer d'abord. Après, vous lirez les messages, Victoria, parce que je voudrais finir le survol de ce livre qui est passionnant. Hein.
Alors, pour les valeurs, c'est pas original, mon secteur, si vous voulez. C'est pour ça que je dis passons un peu rapidement là-dessus.
Et alors, maintenant, les origines, je vais vous demander de résumer aussi, parce que c'est un travail, c'est un travail très important, mais il faut vraiment le lire.
Oui, chapitre, bien sûr.
Parce qu'il est complexe, il est.
C'est complexe, c'est complexe. Mais on peut dire une chose, c'est que les combattants musulmans ne sont pas comme ça sortis du désert, si vous voulez. C'était des gens aguerris déjà. Pourquoi ? Parce que vous aviez les deux empires, l'empire perse et l'empire byzantin, qui s'affrontaient, qui étaient l'un auprès de l'autre, et ils avaient comme l'empire romain au limès de Germanie, où ils avaient les francs qui protégeaient. Ils avaient donc fait des accords avec les francs pour protéger des invasions germaniques. Eh bien, il faut voir les deux empires perses et byzantins exactement la même chose. Ils avaient des royaumes arabes de part et d'autre. Et ils avaient dans les armées perses et byzantines, évidemment, des unités arabes. Et lorsque les deux empires se sont affrontés, se sont déchirés, eh bien tout d'un coup l'empire perse s'est écroulé et les armées arabes de cet empire perse se sont trouvées comme des centurions, quoi. Et ce sont eux qui finalement sont partis à la conquête. De l'Empire perse d'abord, et puis du reste ensuite. Alors c'est joint à cela une mystique donc spirituelle, qui elle n'était pas arabe, mais qui était judéo-chrétienne. Voilà, c'est ce qu'il faut voir alors.
Alors ça, il faut lire ce chapitre parce que il est passionnant. On apprend beaucoup, beaucoup de choses qui sont confirmées d'ailleurs par beaucoup d'autres travaux qui ont été faits.
Absolument.
Sur les origines à la fois talmudiques et chrétiennes de l'islam. Mais bon, on va pas en parler ce soir. Ça
bien sûr, c'est pas possible.
Et, en tout cas, ce livre s'appelle Le Petit Guide du Coran. Il est de Laurent Lagartempe, L-A-L-A-G-A-R-T-E-M-P-E, Lagartempe. Et il est paru aux éditions Concept, C-O-N-S-E-P, et vous le trouverez
il est
dans
diffusé
toutes les bonnes librairies.
Duquesne Diffusion,
entre autres.
Duquesne Diffusion.
Maintenant, Victoria, vous pouvez poser vos questions.
Ce ne sont pas les miennes, elles sont celles des auditeurs. Il est avéré, m'a-t-on dit, que le Coran a été dicté par l'ange Gabriel à Mahomet. Mais Mahomet ne savait ni lire ni écrire. Que pouvez-vous nous dire de cela?
Oui, alors, évidemment, le public est immergé par cette légende, parce que tout le monde la rappelle, n'est-ce pas? Mais les plus grands érudits, s'ils font une traduction, s'ils font un article, ils commencent par vous mettre un petit chapitre d'introduction, et ils vous racontent l'histoire magnifique de Mahomet. Mais c'est une histoire complètement inventée 2 siècles après. Alors n'en parlons pas. L'ange Gabriel, tout ce que vous pouvez imaginer, Khadija, la femme de etc., Aïcha, etc., etc., tout ça, ça n'existe pas dans le Coran. Rien, aucun entourage. Donc c'est de la pure légende, et il faut que le public sache que cette légende a été écrite 200 ans après. N'est-ce pas? C'est comme si, sur l'épopée napoléonienne, on inventait une épopée, enfin, on habillait cette épopée d'une mystique, on disait, il y a l'ange Gabriel qui a visité Napoléon Ier, etc., etc., vous comprenez?
Alors, un auditeur nous dit, est-ce vrai que le premier Coran avait disparu et qu'il avait fallu le réécrire?
Voilà, alors le quatrième partie de mon livre traite de ce problème. Et évidemment, des érudits comme le père Moussali Bonnet et Mar et d'autres indiquent que le texte du Coran est certainement une traduction d'un premier texte en araméen. Bon, je n'en dis pas plus, mais les experts maintenant arrivent à...
Je vous interromps un instant pour vous suggérer de faire selon la méthode de Jean Ferré, parce qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Vous avez un paquet d'une vingtaine de questions. Donc, monsieur, vous écoutez, vous avez un stylo d'accord. Sûrement sur vous. Vous écoutez les questions, vous sélectionnez les plus intéressantes pour y répondre.
Allez, allons-y.
D'un seul coup. Sinon, là, je suis en train de calculer qu'on va passer la nuit.
D'accord.
Là, j'ai 2 questions à peu près sur le même sujet. Dans le Coran, il est question de conversion à l'islam. Le converti doit faire sa soumission. En quoi consiste cette soumission? Et un autre message sur le même, donc, en quoi consiste l'humiliation pour les convertis à l'islam? Mohamed veut dire le béni, Mahomet veut dire le non béni. Êtes-vous d'accord? Le Coran n'est pas une religion, mais une idéologie. Pour qu'il y ait religion, il doit y avoir des prêtres qui offrent un sacrifice, ce qui n'est pas le cas chez les musulmans, les juifs, talmudistes, etc. Les imams sont des professeurs comme les rabbins. S'il n'y a pas de culte, il n'y a pas de religion. Une auditrice nous dit « Je suis inquiète de tout ce tapage que l'on fait autour de l'islam. Nous devrions savoir une bonne fois pour toutes que notre France a un pacte divin. » Pourquoi ne pas attendre que la France devienne république islamique pour nous apprendre le Coran? L'édition de la Pléiade comprend une partie intitulée « Thèmes principaux classés par ordre alphabétique ». Votre travail aurait donc déjà été fait, semble-t-il.
C'est
possible. Puisque vous voulez parler du... Non, ça c'est un peu trop détaillé.
Bien. Alors, en ce qui concerne donc conversion, soumission, humiliation, alors c'est tout le problème qu'on avait traité tout à l'heure avec le djihad, assorti de la dhimmitude, c'est-à-dire que on est obligé par le sabre hein, d'abord, et puis ensuite par le fisc, c'est-à-dire des dispositions discriminatoires touchant l'habit, etc. Enfin, il y a des détails là-dessus. Les dhimmis, n'est-ce pas, c'est les gens qui sont dans les pays envahis, sont soumis à des régimes discriminatoires de vêtements, de charges. Ils ont droit, ils n'ont pas droit évidemment, et ils n'ont droit à la vie sociale que s'ils se convertissent ou voilà. Bon, c'est tout un. Alors Mohamed MHD, oui, béni, ça ne veut pas dire béni exactement. MHD, d'après les experts, ça veut dire le digne de louange. Voilà, le digne de louange, donc le magnifique, etc. Idéologie, oui, largement, c'est une idéologie politique, si on peut dire ça, assortie d'un volet qui se veut, évidemment, religieux. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas, si vous voulez, une religion, parce qu'il y a quand même des rites, il y a les quatre obligations, n'est-ce pas? Et puis, il y a l'aumône, le pèlerinage, etc. Et puis, bon, il y a le ramadan, donc il y a un certain nombre de rites, si vous voulez. C'est, évidemment, ce sont des rites un peu restreints, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on disait encore? Parole divine? Non.
Oui, c'est pas ça. Écoutez, je crois que maintenant, on a parlé beaucoup du livre, on a donné en tout cas les raisons qu'il y avait de le lire. Moi, je crois qu'il faut vraiment le lire. Je suis pas du tout de l'avis de l'auditrice qui disait pourquoi ne pas attendre qu'on soit une république islamique pour lire le Coran. Ça me fait penser, toute proportion gardée, à ces gens qui ont commencé à lire Mein Kampf alors que les Boches étaient en France depuis 2 ans. Alors, moi, j'ai qu'un conseil à donner aux gens, lisez le Coran. Plutôt que de lire le Coran, d'ailleurs, commencez par lire le petit guide du Coran, exactement comme on lit un guide avant d'aller visiter un quartier un petit peu malfamé, comme ça on sait quel restaurant faire.
C'est une clé.
Et quel endroit éviter.
C'est une clé. Voilà,
on peut finir comme vous avez commencé en disant qu'il vaut mieux être au courant.
Et alors je voudrais ajouter un mot, c'est une question de vocabulaire, parce que je sais qu'un auditeur s'est ému d'un mot qui a été employé au cours de la conversation comme ça rapidement. Le mot khouya n'a absolument rien d'insultant, puisque, sauf erreur de ma part, en arabe, khouya veut dire frère. Donc, quand on parle des Khouyas, tout simplement, c'est-à-dire qu'on reconnaît, comme on est des bons chrétiens, on reconnaît dans les Arabes nos frères humains, et il n'y a aucune connotation insultante dans ce propos, sinon dans la tête de ceux qui ont décidé que ce mot devenait insultant. Et alors ça, c'est un problème entre eux et leur intelligence, mais on ne peut pas débattre tout seul, ça va vite, la conversation va vite cesser.
Dans les têtes de melon que ça se passe.
Pourquoi voilà. remonter au président de la République, si l'on en croit le Figaro d'aujourd'hui, page 8, Chirac a dit à Philippe de Villiers que les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes.
Vous savez, il y avait dans le temps, dans un journal que je lisais quand j'étais jeune et plein de péchés, il y avait une rubrique qui était intitulée « On s'en fout ».
Et que le président confonde greffe et racine, c'est pas surprenant.
Moi, il y a un journal que je lis maintenant que je suis vieux et qui parle justement de sombre zéro et menti, c'est-à-dire qui fait le point des sorties très variées, très nombreuses du président de la République sur cette question des racines de l'Europe, qui a des racines, qui n'a pas de racines, qui sont chrétiens, qui ne sont pas chrétiens. Il s'est contredit 25 fois. Il a envoyé M. Raffarin sur la place Saint-Pierre à Rome se contredire 25 fois également. Il a envoyé son épouse coiffée d'une mantille prendre une attitude extrêmement pieuse à l'occasion de la béatification de Mère Teresa. Nous montrons donc dans l'éditorial du numéro 305 du Libre Journal qui vient de partir, nous faisons le catalogue ces grimaces, de ces pantomimes, de ces contradictions qui se succèdent, et nous en faisons l'addition, la soustraction et tous les comptes sous ce titre, donc sombre zéro et mentir. Tout cela sous une couverture qui est consacrée au nouveau buste de Marianne. Exactement, nous sommes en bonne compagnie puisque c'est un débat qui a occupé 10 bonnes minutes Jean Dutour de l'Académie française et le directeur de Radio Courtoisie Jean Ferret pas plus tard que lundi dernier. Nous approuvons pour notre part le fait qu'Evelyne Thomas, l'éboueuse de la télépoubelle, supplante Laetitia Casta, et les lecteurs du Libre Journal vont comprendre pourquoi dès qu'ils l'auront en main. Je vois à quelques centimètres de moi la vedette de notre manchette, celui que je suis enfin autorisé à appeler notre divin marquis, le camarade d'Olmeta, puisque il règle ses comptes avec Stéphane Bern, et que bon, évidemment c'est tout à fait autre chose comme type de, c'est disons-le humblement, du journalisme people, mais on l'écrit P-I-P-O-L-E, people, parce que c'est quand même la qualité au-dessus. C'est pas les flatteries déguisées en moqueries de Guy Carlier sur France Inter. Ce sont plusieurs années de souvenirs personnels et d'appréciation et de conversations personnelles.
Parce que si c'est ça des flatteries, je voudrais voir quand il engueule quelqu'un ce que ça donne.
Alors effectivement, il nous en touchera peut-être un mot tout à l'heure puisqu'il est là, notre ami d'Olmeta. Mais bon, nous avons dans le Libre Journal numéro 305 une page entière extrêmement dense. On n'a même pas pu mettre la photo à poil qu'on aurait repiqué dans Paris Match, parce que on a titré ça Stéphane Bern à poil. Ce n'est que du texte, mais c'est du texte qui fait extrêmement mal. Les paroles sont souvent encore plus cruelles que les images.
Extrêmement mal, il était temps.
Ah, c'est moi qui fais les mots ici, et les bons jeux de mots raffinés, voyons. Alors, je citerai pour finir notre entretien avec Jean-Pierre Perroncello-Hugoz, le grand reporter toujours en exercice, je le souligne parce qu'il y a plusieurs animateurs de courtoisie qui croient qu'il a déjà été mis à la retraite uniquement, peut-être pour nous avoir adressé la parole 4 ou 5 fois. Perroncello-Hugoz revient d'Azerbaïdjan où viennent d'avoir lieu des élections, entre guillemets, du nouveau président, et il nous explique comment le christianisme a survécu et survivra, bien qu'il subisse des pogroms, des massacres dans cette région qui est majoritairement musulmane. Il se penche donc sur ces chrétiens à la fois massacrés et vainqueurs dans le Caucase. Je mentionnerai 2 autres articles seulement, celui du commandant Bunel qui nous traduit en expert qu'il est, puisqu'il a travaillé des années à l'OTAN, qui nous traduit un communiqué de l'OTAN qui est en langue de bois. Il nous le traduit et ça n'est pas triste. Washington commande, l'Europe paye. Et en dernier lieu, notre article de fond, ce que nous appelons les dernières nouvelles du Marigot, sur 3 pages. Nous faisons un véritable tour de France, de Valréas à Marseille, en passant par Roubaix et surtout par Saint-Claude dans le Jura, de l'offensive, et nous retrouvons le sujet que nous venons de quitter, l'offensive que l'islam est en train de mener dans la vie sociale, dans la vie quotidienne, avec ses parents musulmans qui déboulent dans les écoles avec l'invective à la bouche pour exiger en hurlant que leurs enfants non seulement mangent halal, mais qu'on ne serve pas leur majesté dans des couverts qui n'est jamais touché de la viande non halal. Il y a des incidents, il y a une véritable agression. En ce moment, ça n'est pas seulement le foulard, ce sont les menus des cantines, ce sont toutes sortes de prétextes dans les hôpitaux, ce sont toutes sortes de prétextes sous lesquels l'islam, et non pas l'islamisme, mais l'islam tout court, est en train de lancer une véritable offensive contre la civilisation du pays d'accueil, contre la branche sur laquelle il est assis, à mon avis. Ça n'est pas très prudent, très intelligent, mais enfin, c'est comme ça. Donc, le piège mortel, l'islamisme referme le piège mortel de l'intégration. Voilà, c'est le sommaire très brièvement résumé du Libre Journal numéro 305, puisque nous avons 24 pages, comme 3 fois par mois. Donc, je signale en dernier lieu, grâce à un auditeur d'ailleurs qui me l'a téléphoné il y a 15 jours, j'étais même pas au courant, je savais même pas où j'habitais d'un point de vue internet, donc j'ai donné la vieille adresse, Libre Journal, FRF. Bon, il y a tout de suite un auditeur, ils sont merveilleux, qui m'a téléphoné pour me dire où j'habitais, et où j'habite, c'est France Courtoise en un seul mot, .info. Si je le souligne, c'est que à chaque fois que j'en ai parlé jusqu'à maintenant, c'était avec des réserves dans le genre « Ah, mais c'est des vieux numéros ». Et donc, Serge et moi, on a eu la curiosité l'autre jour, grâce à cet auditeur qui connaissait bien l'adresse de notre site, d'aller voir ce site. Et on a constaté que le dernier numéro était en ligne et qu'il y avait plus de la moitié des articles qui étaient disponibles. Donc vraiment, ça vaut le coup, si on ne veut pas acheter chat en poche, si on ne veut pas me croire sur parole, d'aller sur, je répète une dernière fois, France Courtoise en un seul mot, .info. Si on est convaincu qu'on veut ce numéro 305 parce qu'on était accroché par le sommaire, on envoie un carnet de timbres. Si on se décide enfin à s'abonner pour 1 an, on envoie 110 euros. à notre ami Daniel de Bekesh, fidèle à l'écoute et fidèle devant la caisse. Et la boîte. Comment la caisse? Non. Oui, bon, la caisse, il en faut bien une. La boîte à lettres, c'est ce que je voulais dire. On l'embrasse, Daniel de Bekesh. Donc
c'est Jean-Paul qui fait les bisous. Et puis vous aurez à vous expliquer de ce que vous venez de dire.
Oui, il va s'arranger avec elle tout à l'heure. Hein, et on lui tiendra en plus. Donc, un carnet de timbre pour le numéro 305 ou un autre numéro, un autre spécimen, 110 € par chèque à SDB, 4 places Franz Liszt, 75 010, Paris.
C'était notre minute de publicité qui dure 10 bonnes minutes.
Secondes, sommes-nous deux Jean-Paul ici?
Ah, mais oui, c'est vrai.
Ah bon, voilà, non, parce que comme je suis marié, c'est Jean-Paul qui fait des bisous.
Jean-Paul Arvache, on l'appelle pas Jean-Paul, on l'appelle Père. On l'appelle Père Jean-Paul.
Trois Jean-Paul. On a quatre Igor au Libre Journal et trois Jean-Paul dans le studio, là. C'est bizarre.
Alors, ben justement, puisque. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, ben oui, il faut annoncer les signatures de M. Lagartan, Victoria. Qu'est-ce que vous attendez?
De pouvoir glisser sournoisement une petite voix. Alors, M. Laurent Lagartan dédicacera son livre Le Petit Guide du Coran le jeudi 30 octobre, c'est-à-dire demain, à Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne dans le 15e. Il le dédicacera plus tard à la journée du livre organisée par la Librairie Nationale au Palais des Congrès de Versailles, 10 rue de la Chancellerie, le samedi 15 novembre de 11h à 19h. Et enfin le samedi 29 novembre de 15 à 19h, il sera à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Il manquera que Hams et Racine et puis deux ou trois librairies de la famille, et vous aurez fait le tour de la question à Paris, en tout cas. Bien, alors je vais donner la parole à Jean-Paul maintenant. Jean-Paul, le Perlier. Jean-Paul, le Chériguez de Olmeta, on le garde pour tout à fait la fin, mais pour détendre un peu l'atmosphère avec ses
machardises. Ça veut dire que j'ai combien de temps à parler si j'ai encore...
On verra bien. Alors, Jean-Paul Le Perlier, on va pas faire semblant de se vouvoyer parce qu'on va se prendre les pieds dans le tapis au bout d'un moment. Donc, on te connaît, tu es journaliste, tu as fait deux enquêtes dont les résultats ont été retentissants. Je veux dire, une première enquête sur l'affaire Beljanski.
Qui a duré 10 ans, comme
il y a 10 ans, on ne peut pas dire que c'est une enquête bâclée. Et puis la deuxième enquête, c'est sur Loïc Le Ribot.
Qui a duré deux semaines à peu près, mais intéressante.
Et donc tu avais ramené une interview qu'on a diffusée, une interview de 3 heures.
Qu'on a diffusée en deux fois.
Sur cette radio, il y a quelques mois, et qui avait fait aussi un certain bruit. Et là, tu reviens pour faire un point de ce qu'il faut bien appeler l'affaire Beljanski, puisque c'est une affaire qui dure, alors que les pouvoirs et les mafias avaient cru l'enterrer en même temps que Mirko Beljanski, or pas du tout, puisque ça n'a fait que faire reflamber la passion autour de cette affaire, dans la mesure où ça a amené à la publication du livre de Monique Beljanski, Mirko Beljanski, chronique d'une fatwa scientifique, et puis du livre que tu as écrit avec une jeune collaboratrice extrêmement brillante.
En l'occurrence ma femme, bien sûr, oui. 10 ans d'enquête, et puis pour elle, quelques temps devant son clavier, puis à arranger les choses, à donner un ton plus sentimental, qu'est-ce que les femmes peuvent ressentir, les drames dont j'ai parlé dans ce livre.
Alors, quelle est la situation actuelle de l'affaire Beljanski? Où en est-on exactement aujourd'hui?
Ben, on en est déjà, enfin, on en est, je reviens un petit peu en arrière, donc, Beljanski, en un premier temps, il y a très longtemps, le Beljanski, c'était parfaitement légal, c'était vendu sous forme...
Il faut résumer
En quelques mots. Beljanski, donc, ce sont des médicaments qu'on n'a pas le droit d'appeler médicaments, qu'on appelle à une certaine époque d'une manière en fonction des lois, d'une autre époque autrement, les malades s'en moquent. Ce qui compte pour eux, c'est que ça permet de se guérir ou de lutter victorieusement, en tout cas, et d'avoir d'énormes résultats, de multiplier leurs chances, à la fois dans le cas du cancer, à la fois dans le cas du sida. Avec beaucoup plus de connaissances de ce qui me concerne pour mes enquêtes dans le cas du cancer, parce que les cancéreux se confient plus facilement quand même, bien que le premier livre que j'ai écrit soit en grande partie donc enquête sur un survivant illégal aux éditions Trédaniel par Sophie Chervet, donc soit en grande partie l'histoire de Gérard Wedlich, qui est quelqu'un qui s'est attrapé un sida en sauvant des gens sur les plages, enfin ça serait trop long à raconter ici, un CRS maître nageur qui fait un bouche à bouche prolongé à quelqu'un qui vomit du sang, il se blesse parce que la personne n'est pas rasée, il attrape le sida, à cette époque il n'a rien du tout pour se sauver, et alors il applique quelque chose qui devrait être la chose la plus importante que je dirais dans cette émission, c'est une façon d'envisager la survie en se disant voilà, si il n'y a rien dans la médecine aujourd'hui qui peut me sauver, il y a peut-être quelque part quelqu'un qui a trouvé. Les médicaments, ça ne devient pas efficace par décret parce qu'à beau jour on les met dans le grand livre rouge des médecins. Un médicament parfois est découvert 25 ans avant, il est redécouvert quelque temps après par une industrie qui pense qu'il y a de l'argent à en faire, et puis il va arriver longtemps après à la disposition du public, d'abord parfois dans les pharmacies des armées, comme ce fut le cas par exemple pour la pénicilline, et puis ensuite seulement dans les pharmacies des hôpitaux auxquels n'ont pas accès les médecins de ville, et puis en définitive dans les pharmacies. Et ça peut prendre 25 ans. Et la philosophie, quelle que soit la maladie par laquelle on est touché, c'est de se dire, bon, il n'y a pas moyen de me sauver. Il y a peut-être quelque part quelqu'un qui a trouvé. Pourquoi me refuserais-je maintenant ce qui va peut-être sauver les autres dans 20 ans, dans 25 ans? Alors c'est ce qu'a fait Gérard Wedlich. Comme je l'explique dans ce livre, il est allé chercher, il a sonné à tous les laboratoires, et puis il a fini par trouver à Châtenay-Malabry, dans une faculté de pharmacie, un chercheur qui s'appelait Mirko Beljanski, et qui lui dit, ben effectivement, je travaille sur les ARN, je n'ai pas encore travaillé sur le sida, mais c'est un virus ARN, on va essayer. Il essaye, et Gérard Wedlich est encore vivant, en super forme, aujourd'hui, d'à peu près 18 ans après, quand même, alors qu'il développait déjà les maladies opportunistes du sida, qu'il était en train de mourir, qu'il avait quelques mois devant lui, il est en pleine forme, et j'en connais beaucoup d'autres dans le même cas. Une femme qui s'est fait faire 67 poches de sang contaminées, vous imaginez ce que c'est, à côté d'une simple seringue. Quelque temps après, on disait à son mari, « Oh, c'est même pas la peine de lui acheter des lunettes, elle n'aura pas l'occasion de les porter. » Et il s'est passé pour elle à peu près 17 ans. Elle est en pleine forme aujourd'hui. Voilà. Mais alors, ces produits Beljanski faisaient concurrence à certains grands laboratoires pharmaceutiques. Ça gênait beaucoup de gens. Beljanski faisait de l'ombre également à beaucoup de gens. Il avait eu raison dans des polémiques contre des gens importants en France, contre Jacques Monod notamment, et on lui en voulait terriblement. Alors il s'agissait d'abattre Beljanski. Ces produits étaient en vente préparation magistrale dans les pharmacies. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on change la loi. On fait que ces produits, suite à quelques décrets, ne soient plus valables dans les pharmacies. Du jour au lendemain, il devient hors la loi. Et là, il se trouve dans une situation qui consiste à ce qui est arrivé, par exemple, aux gens qui sont battus pour l'Algérie française, ce qui est arrivé pour au lendemain de la défaite de Sedan. Parfois, il y a la loi d'un côté, et puis il y a la morale de l'autre côté. Et soit Beljanski suivait la loi et ne donnait plus ses médicaments aux malades qui allaient mourir, et puis qui frappaient à la porte. Comment vous pouvez pas arrêter du jour au lendemain alors que vous avez le moyen de me sauver? Et soit il suivait la morale. Les lois changent en fonction des gouvernements qui peuvent changer, mais il y a quelque chose d'éternel qui est l'essence du bien et du mal qui est au cœur des hommes et qui ne change pas. Ça s'appelle la morale. Beljanski s'est mis hors la loi, il a choisi la morale, il a continué de fournir ses médicaments et sauver des vies humaines.
Ce qui est fabuleux, c'est que ce pouvoir qui a légalisé l'avortement interdit le recours à des produits qui ne sont pas enregistrés officiellement comme médicaments, et poursuit les chercheurs, mais poursuit et persécute les malades. C'est là qu'on est vraiment au cœur de ce que j'appelle moi l'inversion diabolique d'une société qui est littéralement diabolique. Parce que
pour ce qui est de poursuivre les malades, la suite de ça, c'est qu'ils ont donc envoyé le GIGN dans les laboratoires de Beljanski. Ils ont confisqué
avec mission de tout saccager
ce qui a été fait totalement. On a mis les scellés sur les laboratoires. Cet homme qui n'avait fait que du bien toute sa vie, qui n'avait jamais intéressé par l'argent, s'est retrouvé à plus de, alors qu'il était en retraite et qu'il continuait à travailler pour le bien public après sa retraite, et assez frais en plus, s'est retrouvé avec les menottes, s'est retrouvé avec l'interdiction au nom du secret de l'instruction de se défendre. Il n'a plus le droit de participer au colloque sur le cancer à l'étranger où il était invité régulièrement parce que c'était une célébrité mondiale. Il n'avait plus le droit même de parler de ses recherches. Voilà. Mais même, non, même parmi les malades, il n'avait pas le droit d'en parler. Alors cet homme est fini par mourir de désespoir après avoir écrit à Gérard Wedlich, dont je parle dans mon livre, et tout ça est dans ce livre précisément, donc Enquête sur un servement illégal. La vie n'a plus de sens dans un monde où l'on n'est plus utile à personne et il s'est laissé mourir. Voilà donc en gros l'histoire Beljanski, mais elle continue parce qu'il y avait des procès qui étaient en cours.
Je voudrais que tu... Ça t'ennuie pas de parler de ton cas personnel?
Oui, alors là c'est un peu long. Disons que mon cas c'est que moi j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire Beljanski en enquêtant contre Beljanski, en cherchant des victimes de Beljanski. Je n'en ai en 10 ans pas trouvé une seule, mais je suis arrivé à peu près à 3800 personnes qui devaient être mortes et qui sont vivantes. J'ai interrogé les médecins, j'ai vérifié, tout est réel, c'est indiscutable quand même. Nous avons fêté cette année les 20 ans de survie de quelqu'un qui avait un cancer du pancréas, qui était en train de mourir quand sa femme lui a écarté les dents pour lui mettre ses produits Beljanski. En avril, nous avons fêté ses 20 ans de survie, il y a plus de 80 ans, il est en pleine forme. Bon, alors, ce qui est arrivé, effectivement, que je raconte toujours avec difficulté, parce que parler de sa mort n'est jamais confortable, eh bien, après une aussi longue enquête où j'ai rencontré tellement de malades, un beau jour, le malade, ça a été moi. Pour des raisons qui seraient longues à raconter, enfin, mon journal fait faillite, que tu connais bien Minute, je te cherche des financiers, j'essaye de le racheter, j'échoue, je ne peux pas. C'est peut-être ça qui m'a... Il y a souvent quelque chose, une rage rentrée à l'origine de ce genre de choses. Toujours est-il que ça serait trop long à dire. Bref, je me trouve avec un cancer. Je me fais donner par relation, tu sais, quand on est journaliste, on en a énormément, directement par le ministère de la Santé, le nom du meilleur spécialiste de France, et qui me dit, bon, j'abrège parce que ça a été long d'en arriver là, et qui me dit, voilà, écoutez, vous refusez l'opération, bon, eh ben, vous avez 3 mois à vivre qui seront 3 mois d'enfer. Et c'est à ce moment-là que je suis chez moi, j'ai rendu à ma femme sa liberté, j'ai envoyé mes enfants en Espagne en disant que vous rentrez, ce sera terminé, j'aurai fait brûler mon corps, j'existerai plus, vous n'aurez aucun souci, tout sera fait. Voilà, je me souviens encore de mes enfants, papa, mais pourquoi tu nous serres si fort? C'est dur à raconter ces choses-là quand on les a vécues, mais ça fait partie aussi de ma reconnaissance pour Beljanski quand j'en parle aujourd'hui. Parce qu'un beau jour, j'étais couché, donc pour mourir, je m'étais mis dans un rez-de-chaussée, c'était plus facile pour descendre le cercueil, hein. Quand on sonne à ma porte, dans ce pays, on n'est jamais sûr de rien, vous attendez la mort, c'est le facteur, hein. Et c'était un certain Serge Dubekec qui m'envoyait un petit colis dans lequel il y avait des produits Beljanski parce que je lui avais conseillé quelque temps avant que ça lui avait rendu service et qu'il me rendait le même service à mon tour. Je me dis, est-ce que la vie, je m'étais préparé à mourir, est-ce que la vie serait par hasard possible? Et je me dis non, parce que mon cancer est tellement énorme que je ne pourrais pas métaboliser suffisamment de produits pour arriver à tuer toutes les cellules cancéreuses qui naissent à toute vitesse, parce que c'est ça un cancer, c'est quelque chose qui crée des cellules immortelles qui se reproduisent en permanence. Et quand vous en fournissez plus que vous pouvez métaboliser de produits, quelle que soit l'excellence du produit, vous êtes foutu. Et je me dis, de toute façon, c'est pas la peine, je suis foutu. Et je m'endors. Et je me réveille en sursaut, cette fois-ci c'est Madame Beljanski qui me téléphone et qui me dit, mais écoutez, passez donc me voir, vous savez que nos actes nous suivent dans la vie, bien que je sois pas très catholique, j'ai dû remarquer cette chose-là, nos actes nous suivent. Et Madame Beljanski me dit, mais vous avez été un des rares journalistes honnêtes en ce qui nous concerne, Monsieur de Becquet vient de nous dire que vous aviez un grave problème de santé, je peux peut-être quelque chose pour vous. Et c'est donc là que j'ai pris les produits Beljanski, que j'ai pu, grâce aux produits Beljanski, avoir recours à des traitements officiels qui n'étaient pas possibles si je n'étais pas protégé des effets secondaires par les produits Beljanski. Donc c'était il y a exactement 3 ans et 4 mois que j'avais 3 ans à vivre, et je dois dire que j'avais 3 mois à vivre, pardon, et je dois dire que je suis plutôt en forme. Donc les produits Beljanski, je les connais bien, mais je m'attendais pas à raconter mon histoire ce soir.
Non, c'est parce que tu me le demandes. C'était intéressant de te faire raconter cette histoire. Pourquoi? Parce que une des pas accusations, mais enfin une des j'ai pas rumeur, mais enfin les commentaires qu'on fait sur le fait que j'insiste tellement sur cette affaire Beljanski, c'est que ça pourrait être pour des raisons intéressées. Alors évidemment, j'écarte ça d'un pied distrait. Ce que je voudrais dire, c'est que si je m'intéresse à l'affaire Beljanski, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que je suis révulsé par la coalition des pouvoirs politiques et des mafias financières, révulsées. Or là, on est au cœur de ça. C'est-à-dire que les pouvoirs politiques, qui sont financés par les mafias des grands laboratoires pharmaceutiques, ont entrepris d'écraser un homme dont les inventions, dont les découvertes risquaient de provoquer des difficultés financières pour les laboratoires. C'est la même chose à propos du cholestérol. On en parlera quand le moment sera venu. Et On a publié dans le journal récemment, dans le Libre Journal d'ailleurs, une autre histoire relative au cancer qui montre que...
Ah, j'allais demander que tu en parles, parce que je l'ai lu, moi, et qui connaît le sujet avec... J'étais ahuri, et je te demande d'en reparler ce soir, parce que j'avais l'intention que ça fasse partie de la partie d'émission qui est la mienne.
En deux mots, j'en parle, mais je voudrais que le docteur Willem, qui est celui qui a ressorti cette affaire, vienne ici. À l'époque où Boulin était ministre de la Santé, un médecin a établi un rapport d'où il ressortait que simplement par une alimentation normale, à base essentiellement de fruits et de légumes, on aurait pu éviter 60 ou 70% des cancers qui se déclaraient. Boulin a été extrêmement frappé par ce rapport. Il a donc réuni les personnalités les plus en vue de la médecine de l'époque en leur disant « Je vous demande de faire connaître ce rapport par tous les moyens, c'est une découverte très importante qui peut bouleverser la santé en France ». Et directeur général de la santé publique à l'époque a dit « Monsieur le ministre, c'est une décision très difficile que vous prenez là, car les conséquences seront premièrement qu'il va y avoir un effondrement de la fréquentation des hôpitaux, qu'on va se trouver en face d'une crise sociale dans le milieu hospitalier qui va être dramatique. Deuxièmement, que ça va provoquer un effondrement économique du fonctionnement des laboratoires pharmaceutiques. Et troisièmement, que ça va provoquer dans quelques années un formidable afflux de retraités dont nous ne pourrons pas payer les retraites, car ils ne seront pas morts du cancer avant. Donc je vous demande de réétudier votre décision de faire connaître ce rapport. Et le rapport a été enterré. Et 30 ans plus tard, il vient de ressortir, non pas le rapport, mais une étude qui confirme tout ça. Mais seulement pendant les 30 ans, il est mort plusieurs millions de personnes qui ont été victimes de cancer qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient eu connaissance de ces méthodes de prévention. Alors ça, le docteur Willem a ressorti cette affaire récemment dans un journal de santé, mais malheureusement je ne veux pas dire le nom parce qu'il y en a tellement que je vais me tromper forcément. Ça, c'est la lettre de l'ANUS a repris cette information, mais à l'origine c'est sorti dans un journal qu'on trouve en kiosque, et j'ai trouvé que c'était tellement gigantesque que j'ai fait une petite enquête et j'ai vérifié donc que c'était la vérité. J'ai même retrouvé le nom du directeur de la santé de l'époque qui a pris cette responsabilité phénoménale et qui était probablement un homme d'ailleurs parfaitement respectable, mais on est exactement dans le cas du sang contaminé, c'est-à-dire que c'est des hommes respectables qui prennent des décisions effroyables au nom d'impératifs économiques ou d'impératifs politiques, on ne sait pas très bien, ou d'impératifs administratifs. Et le résultat, c'est des millions de morts. Voilà. Alors quand on vient après nous raconter Nuremberg, moi je veux bien qu'on condamne les gens à Nuremberg, mais c'est exactement le même processus. C'est-à-dire que quand Eichmann dit « Moi j'ai exécuté les ordres, vous ne pouvez pas me rendre coupable des juifs qui sont morts dans les camps de concentration », eh bien, c'est la même démarche intellectuelle que le directeur de la santé qui dit « Moi écoutez, j'ai pensé avant tout à l'intérêt économique du pays, j'ai pensé, d'après les études que nous avions faites, qu'on risquait un effondrement économique si le cancer disparaissait du champ de la maladie en France, ou au moins se trouvait réduit, si le nombre des cancers se trouvait réduit, et j'ai pris une décision qui me paraissait sage, de même que ceux qui ont ordonné de retarder l'utilisation des méthodes américaines pour décontaminer le sang ont pris ces décisions au nom d'impératifs économiques, en disant il faut que la France mette au point ses propres procédés de transfusion sûr, et avant qu'on achète les procédés américains. Et c'est ça qui a provoqué le scandale du sang contaminé. Donc c'est toujours le même système, et l'affaire Beljanski s'inscrit là-dedans. Voilà la raison pour laquelle je reviens toujours là-dessus. La deuxième raison, c'est que, comme le disait Jean-Paul à l'instant, on n'a pas le droit de ne pas donner aux malades la liberté thérapeutique, la liberté de se soigner comme ils veulent. Moi, je trouve que c'est trop facile. On n'est pas des enfants, on est des adultes. On a les moyens de prendre nos responsabilités. Et c'est pas le rôle de l'État de nous dire...
Une seconde, il n'y a précisément pas de liberté sans information. Voilà. Et s'il n'y a pas des gens comme toi pour dire aux gens « Voilà ce qui existe, voilà comment vous pouvez sauver votre vie », il n'y a pas de liberté parce qu'ils ne savent pas.
Alors, il y a un terrorisme intellectuel qui arrive là-dessus, qui joue sur tous les tableaux, c'est-à-dire Beckett, je parle de ça parce qu'il est vendu, le pauvre malheureux, et ou alors Beckett est un naïf qui fait la promotion des poudres de Perlin-Pimpin. Alors, bon, je voulais simplement parler de ça parce que les deux hypothèses me blessent. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais surtout, je crois que la meilleure solution, c'est de s'informer là-dessus. On peut lire le livre de Monique Beljanski, Mirko Beljanski, Chronique d'une fatwa scientifique. On peut lire le bouquin de Jean-Paul Leperlier, Enquête sur un survivant illégal, qui est l'affaire... enfin, l'histoire de l'affaire.
Enquête sur un survivant illégal, c'est le dossier des produits Beljanski qui vu du côté des malades, voilà, et qui est utile aux gens pour sauver leur vie en trouvant le chemin qu'ont suivi les malades pour sauver la leur. Alors, je veux dire dans mon cas que moi, je suis bien sûr intéressé. On m'a donné, Beljanski m'a donné la chose la plus importante qu'on puisse donner à un homme. Il m'a donné la vie, je l'avais perdue. Alors, je suis reconnaissant d'une part. D'autre part, je fais partie en plus maintenant d'une association de malades qui prenons d'autres gens par les mains, tout à fait sans avoir gagné un centime, en les emmenant sur le chemin de la vie. En disant, voilà comment nous avons fait, voilà notre témoignage, faites comme nous. C'est pourquoi ce livre est un livre de témoignages que les gens peuvent lire. Ils se retrouvent leur cas. Là-dedans, il y a des témoignages de cancéreux, il y a des témoignages de sidéens. Et c'est le moyen de savoir le chemin qu'on prend, la philosophie qu'on a quand on prend sa santé en main et quand on sauve sa vie.
Alors, donc à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a une hypothèse ou une possibilité d'une modification du comportement des autorités face à
Beljanski? Eh bien d'abord, pour terminer, il faut dire qu'il y a eu un procès à Beljanski qui a été gagné remarquablement au plan moral, puisque le juge a tenu à dire de manière solennelle, quand il a commencé à rendre son jugement, mais vraiment de manière solennelle, il faut dire que toute notion de tromperie doit être écartée du dossier Beljanski, ce qui veut donc dire que les produits correspondent parfaitement à ce qu'on attend à la fois les malades et les médecins qui les conseillent. Il y a à l'heure actuelle à peu près 1000 médecins en France et des milliers en Europe et dans le monde qui conseillent les produits Beljanski. Bon, ça c'est la première chose. Mais à la suite de ce jugement, pour donner un exemple à quel point la mauvaise foi de ces gens-là, la cruauté presque sadique n'a pas reculé. L'ordre était donné de rendre à Madame Beljanski les cahiers de recherche de son mari qui représentaient toute une vie de travail. Eh bien, ils ont prétendu qu'ils ne les retrouvaient pas, qu'ils les avaient perdus. L'œuvre de toute une vie de son mari est perdue, elle ne peut pas la retrouver. Ça donne une idée encore à quel point ces gens-là continuent de tricher.
On a Gérard Wedlich au téléphone. Gérard.
Oui, bonsoir, Serge.
Bonsoir, je vais chausser le casque, voilà.
Oui, et bonsoir à tous les fidèles auditeurs quoi du Libre Journal, parce que je tiens à les remercier une fois de plus pour tout ce qu'ils ont fait et qu'ils feront certainement pour démultiplier l'information Beljanski.
Alors, vous, Gérard, vous êtes un cas particulier parce que vous êtes à la fois sur le podium des survivants. Je crois que vous êtes médaille d'or ou médaille d'argent des survivants.
Mais vous savez, Serge, mon intervention de ce soir, c'est parce que je crois qu'il y a une demande certaine de vos auditeurs, c'est qu'ils se posent des questions et qu'ils doivent se demander pourquoi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi
on parle librement plusieurs fois sur Radio Courtoisie suite à vos invitations. Eh bien, parce que je sais que vous tenez à informer vos auditeurs sur ce scandale d'État, ce scandale Beljanski. Et pourquoi aujourd'hui, il est préférable, en somme, que je me taise. Et j'aimerais bien...
Mais voilà, alors vous avez la parole. Vous pouvez nous dire pourquoi vous ne pouvez pas parler.
Simplement parce que j'ai été condamné à 5000 euros d'amende par la justice et au motif de publicité vivante pour un produit médicamenteux qui n'avait pas d'AMM. Voilà.
Publicité vivante, c'est-à-dire que vous êtes vivant, quoi.
Voilà. Alors, aujourd'hui, je paye tous les mois, Serge, 250 euros au trésor public, parce que, évidemment, ma modeste retraite de fonctionnaire de police ne me permettait pas de disposer de 5120 euros exactement, comme ça, hein, je répète bien, 5120, parce que on a rajouté 120 euros de taxes pour être autorisé à payer une amende. C'est incroyable, incroyable. Alors, donc, moi, si je récidive dans ce délit, je risque tout simplement la prison. Alors, comme j'ai une femme, Serge, 4 enfants, 3 petits-enfants que je n'aurais pu, normalement, pas dû voir grandir, et tous ces gens qui sont autour de moi sont adorables, moi, je ne vais pas prendre le risque, et je ne fais donc plus de conférences, je ne m'exprime plus en public, et j'ai accepté, certes, de rester le président de l'association Siris, parce qu'autour de moi, j'ai un conseil d'administration solide, et j'ai des bénévoles qui sont déterminés et dynamiques. Donc, je suis toujours le moteur, si vous voulez, de Siris. Maurice, mais c'est pour expliquer aux gens pourquoi ils ne m'entendent plus sur les ondes. Alors voilà les raisons de mon silence, contraint en somme et obligé, et je suis certainement, Serge, le seul Français à être coupable d'être vivant, à devoir payer une amende pour pouvoir respirer chaque jour, parce qu'il est clair que dans le livre qu'a écrit Jean-Paul, Le Perlier, qui s'intitule justement « Enquête sur un survivant illégal » qui est paru aux éditions Pré-Daniel, tout mon incroyable parcours est très très bien raconté. Et si j'étais mort légalement et normalement fin 91, eh bien, pour la justice, cela aurait été tellement plus simple. Mais moi, j'ai préféré vivre, survivre, illégalement certes, mais être bien vivant et en pleine forme, comme vous pouvez l'entendre. Alors, en gros, les grandes lignes de mon histoire, on dirait simplement que, parce que j'étais bête nageur sauveteur CRS, c'est-à-dire profession, ma profession, un service public, j'ai voulu sauver la vie d'un noyé. Et ce noyé se baignait en dehors de la zone surveillée, et donc il était en infraction. Bon, j'ai, moi, à cette occasion, pratiqué une longue pratique de bouche à bouche, le geste qui sauve, et à cette occasion, j'ai été contaminé par l'herpès, le sida, ainsi que l'enquête de Jean-Paul Le Perlier le démontre et l'explique tout en détail dans le livre, etc. Bon, j'ai, dans un premier temps, obtenu, pour tous les sauveteurs de France, Serge, l'obtention d'embouts buccaux de protection, pour que le geste qui sauve ne puisse plus tuer. Car le bouche à bouche, et personne ne m'a prouvé le contraire, est effectivement contaminant. Ensuite, j'ai recherché une solution de vie. Car en 1985, il n'existait aucun traitement contre le sida. Et donc, la justice, dans cette affaire, aurait dû prendre en compte l'état de nécessité. Les magistrats n'en ont pas tenu compte, parce qu'ils reçoivent des pressions, tout ça c'est évident. Bon. Ensuite, j'ai trouvé la solution Beljanski. Et je suis le premier malade, donc, affecté d'un sida déclaré, pas une simple séropositivité, puisque j'avais trois maladies.
Je l'ai déjà raconté, ça, Gérard.
Comment ?
Je l'ai déjà raconté, ça. Oui,
Jean-Paul nous a raconté ça avant que vous ne soyez à l'écoute.
Et aujourd'hui, donc, j'ai 18 ans de recul, je suis toujours en pleine forme, voilà, plus grand spécialiste, à la plus grande stupéfaction, des grands spécialistes comme les professeurs Montagnier, Goudon, qui sont des grands virologues, et ils m'avaient tous condamné, fin 91. Donc, début 92, mes anticorps remontent, crève le plafond, c'est fantastique. Moi, je suis jamais plus malade, c'est merveilleux. Alors là, j'accepte des responsabilités au sein de l'association de soutien aux chercheurs belges, qui est dans tout ce cadre-là. Et alors là, incroyable, mais vrai, 9 octobre 96, 6 heures du matin, les gendarmes arrivent chez moi, saisissent mes gélules belges qui sont ma table de nuit, me mettent 20 heures en garde à vue, veulent ensuite me relâcher parce qu'il n'y a aucun fait à me reprocher. Et là, moi, choqué, j'exige d'être mis en examen pour avoir accès au dossier et espérer pouvoir dénoncer ce scandale. Alors le juge d'instruction accepte ma requête et donc je suis un présumé innocent au début qui peut faire partie du procès. Alors dans ce procès, pour mémoire, 95 inculpés au départ, il n'en restera plus qu'une quinzaine juste avant le procès, donc la montagne accouche d'une souris, et là le jugement sera impressionnant. Je suis condamné à un an de prison avec sursis, 100 000 francs d'amende, au motif de tromperie, donc moi je me suis trompé moi-même, mais je suis vivant, alors tout ça c'est ahurissant, alors on fait appel. La justice devient un peu plus logique à ce moment-là et écoute tous mes arguments. Et les magistrats vont écrire dans un arrêt du 27 septembre 2002 qui est à encadrer selon mon avocat, il y a écrit « Monsieur Gérard Wedlich a accepté de s'investir dans l'association par reconnaissance et par devoir citoyen. Étant humain, il a voulu aider son prochain en ayant le courage de témoigner publiquement. Mais il est donc coupable de publicité illicite pour des médicaments à usage humain. Compte tenu des circonstances de son intervention, la formule traditionnelle et de ses ressources, il convient de le condamner, Gérard Wedlich, à 5000 euros d'amende. Et puis voilà. Donc la justice, pour moi, que j'écris désormais avec une minuscule et entre guillemets, a donc sanctionné au pays qui se prétend être celui des droits de l'homme, des valeurs en voie de disparition, comme le courage, l'amour de son prochain, la reconnaissance envers un savant, l'esprit citoyen et humain, et puis d'autres choses, la non-assistance à personne en danger, et bien d'autres textes de loi n'ont pas été retenus par les magistrats, car ils reçoivent bien trop de pression, et la justice n'est pas libre. C'est Eva Joly, d'ailleurs, qui le dit dans son bouquin. Alors, sachez bien que personne ne peut payer mon amende, que moi et mon épouse, nous sommes fiers de payer, car nous avons voulu essayer de défendre l'intérêt général des malades et la liberté thérapeutique, et mais, hélas, en ignorant la puissance des laboratoires pharmaceutiques. Parce que je crois que personne... vous savez, j'ai des sources de chiffres. Les 8 multinationales du médicament dégagent un bénéfice de 30 790 milliards d'euros. Et pour mieux comprendre ce chiffre ahurissant, il faut le comparer, ses bénéfices, je parle des bénéfices, au budget de la France, dont le dernier a été de 257 milliards d'euros. Alors vous voyez, ça représente une force colossale, et quand on voit dans ce procès trois associations de malades qui naturellement n'ont rien fait progresser, hein, vous avez la Ligue contre le cancer, AIDE et ACT UP, et qui se mettent en partie civile contre une association qui propose des solutions concrètes. Eh bien, tenez-vous bien, Serge, le 8 octobre dernier, un huissier est venu frapper à ma porte à l'île d'Oléron pour, à la demande de la Ligue contre le cancer, pour réclamer les 4600 euros qu'ils ont obtenus au procès. Tout ça, c'est scandaleux, mais sachez bien que pour nous, le combat continue, et continuera d'ailleurs grâce à la participation de tout le monde, de vos auditeurs, de tout le monde. Et il faut le faire pour l'avenir de nos enfants, pour une bonne santé. C'est un noble combat, tout ça. Et moi, tout en restant dans l'ombre, je ferai les choses comme il doit se faire. Donc, je continuerai.
Merci, Gérard. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Quand vous pourrez reparler, quand vous aurez le droit de reparler, vous serez invité.
Jean-Paul Le Février et vous, Serge, Jean-Paul pour Lily, parce que c'est en somme Jean-Paul en ce moment qui parle un peu à ma place. Et en toutes circonstances d'invitation, je dis à vos auditeurs, à l'occasion des fêtes de fin d'année, etc., qu'ils pensent à offrir un ou plusieurs livres utiles qui sauveront sans doute une vie. C'est bien mieux que d'arriver chez des amis qu'avec la traditionnelle bouteille de rouge, les fleurs ou la boîte de chocolat.
C'est ça, ou la cartouche de cigarette qui est pas mal aussi.
Voilà,
au revoir Gérard, à bientôt.
Au revoir.
Le jour où il va avoir le droit de parler, qu'est-ce qu'il va dire?
Je sais pas, mais c'est toujours le drame, c'est que.
Mais
ce qui est terrible, c'est que j'ai fait des conférences.
C'est lui, il est malade,
j'ai fait
des
conférences,
hein.
Bon, dans lesquelles je parlais devant de 300 personnes, et puis j'invitais Gérard pour parler quelques minutes. Ben voilà le type qui est le sujet de mon livre. Il commençait à parler, et quand je voulais reprendre la parole, il disait, mais silence, laissez-le parler. Et finalement, c'est lui qui a continué la conférence. Mais cela dit, il est très convaincu, autant que je le suis moi-même, parce que il sait très bien qu'il doit totalement sa vie au produit belgien, ce qui
comme
il le disait, comme je l'ai dit dans le... Oui, bah ça, de toute façon, je crois pas qu'ils soient beaucoup à réhabiliter, parce qu'ils sont quand même sacrément utiles, et notamment au bord des plages, quand ils risquent leur vie à sauver des vies humaines.
Il y a un bruit qui court sur les CRS, souvent...
Le CRSSS, mais dans son cas, CRSSS, c'était CRS, sauveteur secouriste. Voilà. Hein. Bon. Alors, je voudrais... J'ai combien de temps encore, à peu près
5 minutes.
5 minutes seulement. C'est peu. Hein. Bon, alors, je voudrais dire que... J'ai donc fait ce livre, Enquête sur un survivant illégal, mais il y a très longtemps. Maintenant, il vient de paraître donc chez mon éditeur le livre de Monique Beljanski, Mirko Beljanski, chronique d'une fatwa scientifique. Celui-là, ce n'est pas l'affaire Beljanski vue du côté des malades, c'est l'histoire de toute cette lutte d'un couple de chercheurs qui voit se lever contre eux toute la
nomenclatura.
C'est marqué là d'ailleurs. Nomenclatura. scientifiques pour les empêcher de progresser, et notamment, peut-être parmi les diverses raisons, celles dont on parlait tout à l'heure, en réalité, le cancer fait vivre plus de bouches inutiles qu'il ne tue de gens
aujourd'hui, comme
tu le disais parfaitement tout à l'heure. Bon alors, puisque je n'ai que 5 minutes, je passerai très vite, après avoir parlé de ce livre dont je répète le titre, Mirko Beljanski, par Monique Beljanski, chronique d'une fatwa scientifique. Alors une fatwa, tout le monde sait ce que c'est, on en est employé maintenant des termes musulmans, mais c'est comme ça. Très bien. Voilà, donc, Guy Trédanier, l'éditeur,
C'est intéressant dans le bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages à la fin.
Il y a beaucoup de témoignages. Il y a aussi les témoignages de malades également à la fin. Mmh. Donc c'est un livre utile. Ça fait partie de ces livres utiles. Un des sous-titres du livre, c'est Dossier des découvertes interdites. Alors, comme je suis donc maintenant directeur de collection chez cet éditeur, youpi, j'ai un nouveau métier. Alors, j'ai fait dans la même collection, Dossier des découvertes interdites, j'ai fait paraître un livre de Pierre Lens qui s'appelle Savants maudits, chercheurs exclus. Il est utile d'en parler ici parce que beaucoup de gens ont tendance à dire.
Il appartient à la même église que toi.
Oui,
hein.
Toi, tu as entendu dire à peu près, oui, mais je suis un petit peu moins virulent, comme tu peux savoir. Hein. Je te rappelle que notre ami de tout à l'heure, Bernard Anthony, me disait de toute façon, t'es peut-être plus catholique que moi. Parce que moi, en tout cas, les valeurs, j'y crois, même si le Dieu, je ne l'ai jamais rencontré, je ne peux pas m'inventer une fois que je n'ai pas. Mais je sais que les valeurs catholiques, en tout cas, sont des valeurs porteuses de vie. Ma femme pense la même chose et nous essayons de les vivre. Voilà. Maintenant, le jour où je rencontrerai la foi, je serai ravi. Mais je peux pas me l'inventer.
Aller derrière un pilier à Notre-Dame, ça marche pas mal.
J'ai été jusqu'à Lourdes. J'ai essayé. J'ai pas triché. J'ai pas triché. Bon voilà. Mais j'ai vraiment pas rencontré. J'ai pas ça en moi, ce besoin. Je ne sais pas. J'en reviens à ça. Moi, les bruits que j'entends, c'est pas que je m'occupe de ça pour argent ou autre chose. Non. On dit finalement cette histoire belgeance qui se prétendent victimes. Mais est-ce qu'ils auraient pas un petit peu le délire de la persécution? Bon alors, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que l'affaire belgeance qui est citée dans ce livre, Savons maudits, cherche aux exclus de Pierre Lens, dans le cadre de toute une politique qui veut qu'effectivement on ne veuille pas de certaines guérisons en France. Ah non, ne me le prenez surtout pas, il est en train de prendre le livre au moment où je veux en parler. Bon, très bien. Dans ce livre notamment, il faut savoir que depuis 50 ans, on peut guérir le cancer. C'est l'affaire Prioré qui a été une affaire d'État dont on a parlé pendant fort longtemps. On peut parfaitement guérir le cancer par des ondes. Et on le sait. On n'a jamais voulu faire sortir... Alors, Prioré était aidé par le maire de Bordeaux, Chaban-Delmas, qui a quand même été Premier ministre. L'amiral, je crois, Villeneuve, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était le spécialiste scientifique auprès de Giscard d'Estaing, a décidé que c'était sans doute la plus grande découverte du siècle que la découverte de ce système qui soignait avec des ondes et qui guérissait les cancers. Voilà. Malgré tout ce qui a été fait, on peut trouver, et tenez-vous bien, à l'Académie des sciences, plusieurs communications scientifiques sur les résultats, sur les guérisons par Prioré, mais elles ont toutes été refusées par l'Académie de médecine sous la pression du lobby des laboratoires. Alors, là-dedans, il y a donc 12 chercheurs qui sont dans le même cas. Il y a l'histoire de Quinton. Quinton qui a sauvé des enfants touchés par le choléra que personne ne pouvait sauver. C'était au début du siècle quand même. Quinton qui était célèbre dans le monde entier. Seulement Quinton, c'était pas la molécule chimique qui rend milliardaire les laboratoires, c'était de l'eau de mer. Alors vous comprenez, ça c'est pas admissible. Alors on a étouffé également Quinton. Et là-dedans, donc, on trouve 12 savants maudits et chercheurs exclus, qui chaque fois ont trouvé des médicaments extraordinaires. Et bien sûr, dedans, on trouve Beljanski, incontournable. On trouve Loïc Le Ribaud, dont j'ai longuement parlé ici. Tous ces gens qui pourraient guérir, mais dont on ne veut pas. En général, parce que ce n'est pas du domaine de la chimie, par conséquent, ça ne peut pas être exploité par les laboratoires. Et puis, dans certains cas, comme vous le disiez, il est évident qu'on ne veut pas guérir certaines maladies.
Merci Jean-Paul.
Alors attendez, je répète bien. Alors, donc, ça, dit, chercheurs exclus, Guy Trédaniel, l'éditeur, Pierre Lens, l'auteur. Monique Beljanski, alors Mirko Beljanski, chronique d'une phase scientifique, toujours Guy Trédaniel. Et puis, mon propre livre, qui date maintenant déjà depuis un an, je crois, mais qui est vraiment un certain succès, je dois dire, en toute modestie. C'est par Sophie Chervais et ma femme, enquête sur un survivant illégal, l'affaire Gérard Wedlich, et également là-dedans, donc des témoignages de cancéreux qui ont sauvé leur vie. Voilà.
Jean-Paul a fini, c'est le tour de Jean-Paul.
Voilà, maintenant on passe à Jean-Paul. Est-ce qu'il y a un petit bout de musique pour le Barki? Alors Marquis, quel enterrement, quel mariage, parce que vous êtes devenu une espèce de néchroniqueur.
Ah non, c'est pas de ma faute, hein, c'est, je suis l'actualité mondaine. Alors cet été,
ça se vide.
Pardon ?
Ça se vide.
Oui, ça se vide, mais ça se remplit aussi, les baptêmes quand même. Et donc cet été, ben, je me suis un peu promené dans des tas d'endroits. D'ailleurs, on s'inquiétait de ne pas entendre parler de moi, mais moi aussi j'ai pris des vacances dans des endroits très, très simples. La montagne, et après à Montargis.
C'est vous et dire. On a lu un joli papier sur une noce de mariage dans le Libre Journal, à la montagne.
Alors je vais quand même vous faire un petit retour en arrière. Bon, il y a des choses que je vais laisser tomber, où je pourrais en parler une autre fois. Mais en mois de septembre, je me suis retrouvé dans une ambassade, je ne vous dirai pas laquelle. Il y avait un cocktail, c'était très élégant. Et au buffet, il y avait Alexandre Adler, qui broyait des petits fours avec ses grosses mâchoires.
Il vaut mieux l'avoir en photo, lui.
Voilà. Et puis j'entends son interlocuteur.
Il paraît, j'interjette pour une fois que je connais quelque chose sur les people, il paraît que quand il a fini son couscous, il en commande un autre.
Ah oui, mais j'ai jamais vu, avec tout ce qui lui reste sur les revers du veston, bon. Et il était avec un de ses amis, et j'aime bien entendre ce que dit Adler quand il est quelque part. Alors je m'approche et j'entends le copain qui lui dit, dis donc, tu ne trouves pas que Laurent Fabius, on en parlait, il est en train de changer de look, en vieillissant devient une caricature de juif. La puissante machine intellectuelle qui a de l'air plisse le front, s'ébroue et lâche. Normal, c'est la punition que Dieu réserve aux convertis.
Ça, vous l'avez entendu de vos propres oreilles.
Oui, de mes oreilles propres. Oui, voilà. Attendez, ça, c'est pas... Ah, vous savez que...
J'aime bien parce qu'il se relit, puis il dit non, ça, c'est pas intéressant. Parce
non, mais c'est parce que je sais que j'ai pas une heure et demie. Et puis j'ai pas de livre à vendre. Alors,
il coupe en direct.
Je coupe en direct. Oui, non, mais ça pourrait être dit une autre fois, ça. C'est intemporel. À l'église de la Madeleine, on a, hélas, enterré notre ami des bateaux-mouches. Et donc, c'est
Bruel,
les obsèques de Jean Bruel, l'inventeur, entre guillemets, des bateaux-mouches. Il faisait un temps magnifique, il y avait la foule, c'était très bien. Et cafouillage du protocole des pompes funèbres quand arrive M. Jean-Marie Le Pen, forcément. Où placer M. et Mme Le Pen venu honorer un de leurs vieux amis, un ami de longue date. Alors, après un peu de cafouillage, on le met au deuxième rang, côté évangile. Et personne à côté, parce que des fois qu'il aurait le sida. Et puis personne devant, non plus. Alors, il est au deuxième rang, mais personne à côté, personne devant. Le clergé, entre guillemets, ça se voit, est agacé, ça va pas. Cette présence le dérange. Alors, comme je le connaissais, du temps était curé de Notre-Dame des Victoires, après la mèche, j'ai trouvé l'abbé Mola du Jourdain.
Ah, moi, je croyais que c'était Le Pen dont vous parliez.
Non, mais je connais un peu aussi. Et je connais bien aussi, oui. Enfin, un peu. Donc, comme je connais l'abbé Mola du Jourdain, je suis allé le trouver. D'ailleurs, vous remarquerez, Mola du Jourdain, pour un curé, c'est pas mal. Et je lui dis, ça n'avait pas l'air de vous plaire d'avoir en face de vous le représentant de ces millions de Français. Alors, il n'a pas répondu, mais il a froncé le sourcil. Et là, je me suis laissé aller à lui dire, vous avez qu'à dire la messe normalement, vous lui tournerez le dos.
C'est très joli.
Une petite chose qui m'a amusé, j'avais besoin de ruban bleu pour mettre à mes vestons, comme je sors dans le monde, je mets mes décorations, et je suis allé dans les galeries du Palais Royal en acheter, et puis j'avais jamais fait attention, j'ai regardé le petit paquet, il y a l'adresse dessus, alors l'une des boutiques s'appelle Au Duc de Chartres, et l'adresse c'est face aux colonnes de Buren. Je vous laisse réfléchir à ça, voilà. Je suis allé à un mariage, je suis allé à deux mariages à l'étranger, un mariage en Italie, où Philibert de Savoie épousait Clotilde Courault. Alors, bon, j'ai pas de commentaire spécial à faire, c'était un feuilleton télévisé, quoi, un truc
people. La comédienne enceinte Clotilde Courault, pour
voilà.
Ceux qui sont pas abonnés à Paris Match.
Voilà. Et moi, je voudrais simplement dire qu'on a beaucoup entendu dire que c'était idiot, que l'Église délègue un cardinal pour les marier. Alors, je pense que si l'Église avait dit « on veut pas que ce soit un cardinal qui les marie », on aurait crié « rétrograde, vieux schnock », etc. Et là où on accepte un mariage, c'est pas bien non plus. Mais enfin, de toute façon, quand on veut tuer son peuple, on dit qu'il en a rage.
Et en plus, si j'ose dire, Savoie, il n'aura pas l'excuse du chat pour répudier sa femme. Parce que...
Ah non, ça, non, ça là, c'est clair. Là, la dynastie est assurée, il n'y a pas de souci. On peut aussi les féliciter d'avoir... Enfin, ou alors c'était peut-être dans l'euphorie à Gstaad ou ailleurs, ils n'ont pas eu le temps d'ouvrir le tiroir de la table de nuit, j'en sais rien. Enfin, bref, c'est fait.
Grossier,
hein, c'est pas bien. Alors j'ai remarqué une chose quand même.
Franchement.
Comme ce petit jeune... Enfin, on peut quand même dire que la famille de Savoie est enfin autorisée à rentrer en Italie. C'est les derniers rois en exil qui ont eu le droit de rentrer chez eux. On s'attendait à des actes un peu plus chic, un peu plus royaux. Ben non, là, c'est un mariage de midinette avec un playboy. Boy, voilà. le mariage était tout à fait quelconque. Et alors évidemment, tous les ordres que préside le prince de Savoie et son fils étaient représentés, ordre de Saint-Lazare et tout ça. Mais tous ces messieurs étaient venus en jaquette, ils n'étaient pas venus en habit, parce que vu la mariée qui était enceinte, tout ça, ça la fout mal. Alors, donc, il n'y avait aucun uniforme de portée, ce qui est rare dans un mariage royal. Le seul, qui on n'avait pas dû expliquer ce qu'il fallait faire, qui est venu avec un uniforme, c'est le membre de l'Institut, Pierre Cardin. Alors, il avait l'impression d'être le monsieur royal de ce grand cirque. Enfin, loyal pour Cardin. Bon. Et alors, quelques temps après, il y avait le mariage de Fleur de Wurtemberg. Alors là, c'était grosse fête. Hein. Altosen, château familial, orné des œuvres de Diane de Wurtemberg.
C'est la fille de Diane.
Oui, Fleur, c'est la fille de Diane, et la filleule du roi d'Espagne. On tirerait les conclusions que vous voudrez. Et donc, le château est entouré des œuvres de Diane. On ne voit plus le château, c'est effrayant. Bon, il faisait une chaleur à crever.
Pas dire de mal de Diane devant moi ou devant ma femme, parce que
non, mais
je sais qu'elle l'adore. Alors,
mais bien
s'il
sûr.
Vous plaît. Hein.
Mais moi, j'aime beaucoup la dame, j'aime moins ses œuvres. C'est bon.
Ah bon, d'accord.
Et alors, il y avait de la bière et de la saucisse, c'est Juan Carlos, qui était accompagné de la reine des Bulgares. Ça sentait la noce, mais vraiment la noce allemande. Voilà. Bon, alors ça, c'est fini. Qu'est-ce que je voulais raconter aussi? Cet été, je me suis trouvé à Grenoble, un festival Berlioz qui était organisé par le président du Conseil général socialiste de l'Isère, M. Vanini, qui est un homme charmant, assez beau garçon, je dis ça parce que c'est important. Et il avait invité Rostropovitch, donc c'était très bien, et était présent Notre-Dame de Paris, Bertrand Delanoë. Et Delanoë avait vraiment l'impression que donnait l'impression que M. Vanini est un peu à son goût. Alors il lui a fait un petit brin de cour, comme ça, gentiment. Et l'autre, agacé, a fini par présenter sa compagne à Delanoë. Et Delanoë, un peu agacé, quand il les a quittés, a dit au revoir. Au revoir, je vous salue quand même. Voilà.
C'était dégueu. Bon, vous avez quand même une jolie nouvelle, non?
Oui, je vais vous la dire. Je voulais vous dire aussi que Delanoë, vous le savez, a inauguré le quai François Mitterrand, donc il participe à l'édification de la statue morale de Mitterrand, donc je conclue que Notre-Dame de Paris met la main au culte de l'ancien président.
Est-ce que les 30 militants du Front National qui se sont permis de crier « Vive Le Pen » et sont allés au trou immédiatement ont été libérés depuis?
Non, oui, donc on les a dispersés, c'était que 20 d'ailleurs.
Et on les a mis au bloc?
Oui, mais dans l'heure qui a suivi, ils sont sortis.
Ah bon, je pensais qu'on allait peut-être les guillotiner.
Non, pas du tout.
Ah bon, tout va bien alors. J'ai annoncé tout à l'heure que vous alliez régler vos comptes en direct avec Stéphane Bern, et finalement il faut se procurer le Libre Journal.
Ah oui, c'est mieux, oui, c'est mieux.
Bon, bah très bien. Alors, c'est dans le Libre Journal, Stéphane Bern à poil, numéro 305, à commander pour un carnet de timbres à SDB. 4 places Rentelis, 75-010, Paris. Je pensais que vous aviez fini, ça n'est pas le cas. Ainsi qu'Opéra Arguarche.
Voilà, non mais attendez, oui ça va. Serge m'a demandé de dire qu'il y avait une jolie nouvelle, j'en ai 3. Mais enfin, alors je vais vous dire la jolie, et puis je vais dire que j'y serai, puisque c'est une amie. Demain matin, au Palais de l'Élysée, le Président de la République remet la cravate de commandeur de l'Ordre National du Mérite à Mademoiselle Renée Saint-Cyr, qui a été une des premières à être interviewée par Serge à la création du Libre Journal, qui est parfois une habituée. Oui, bien sûr. Elle a donné...
C'est une grande comédienne pour nos jeunes auditeurs.
C'est une grande comédienne. C'est un écrivain reconnu et c'est la maman de Georges Lautner. Voilà. C'est et puis, indépendamment de tout ça, elle porte très haut l'élégance. Et on peut la saluer parce qu'elle est. C'est pas un manque de galanterie de dire qu'elle caracole vers l'anniversaire à 3 chiffres.
Donc, tous ceux de nos auditeurs qui sont invités à l'Élysée demain, vous avez.
C'est demain à 11h.
Voilà, auront le plaisir de vous y retrouver.
Oui, elle arrivera dans une Rolls jaune. On ne pourra pas la louper.
Bien.
Et. Je vais prouver qu'elle est encore en forme, c'est qu'elle met la dernière main un livre à clé qui s'appelle Monsieur De, et qu'il faudra décrypter. C'est un livre où elle raconte quelques aventures avec quelqu'un. Elle l'a sous-titré l'opéra de Quatre Fous. Les Quatre Fous, c'est les quatre copains qui dînent avec elle le dimanche, dont votre serviteur. Mais c'est un rappel du fait qu'elle a créé l'opéra de Quatre Sous il y a quelques années. Et je termine en vous disant que demain à 18h, après l'Élysée, à l'église Sainte-Rita, 27 rue François Baumin, dans le 15e, il y a une messe solennelle pour mes 60 ans. Et que dans la même église, le 2 novembre, à 15h, il y a une messe solennelle avec bénédiction des animaux. Ça commence demain soir, la bénédiction des animaux.
Vous n'avez que 60 ans
ou si oui. Ça commence demain soir. Oui.
Pour la bénédiction du marquis, on lui dit, Serge et moi, je pense à demain, on ne manquera pas cette occasion.
Non.
Et puis vite, on lui remet sa housse blanche pour se tourner pour à peine 10 minutes vers le père Arguarche, avec qui on a attrait traiter, comme d'habitude, de la situation de Riaumont et plus exceptionnellement du village breton. Par quoi commence-t-on, monsieur l'abbé ?
D'abord, je voudrais...
Mon père, on dit pas monsieur l'abbé, il n'aime pas ça du tout.
C'est pas mon père.
Les religieux sont appelés père ou frère, et puis les vicaires et les curés sont appelés monsieur l'abbé.
Les maires de Paris, ma sœur.
Padre, voilà. On peut dire. Les Américains disent
c'est pas grave du tout, bien sûr. Je voudrais remercier surtout tous les gens qui ont entendu mon appel la dernière fois pour des problèmes financiers. C'était une catastrophe. Il faut que l'intendance suive pour Riaumont. Et je sais pas, j'ai dû être bon pour mon appel parce que je suis très ému de penser à toutes ces lettres que j'ai reçues qui sont magnifiques. Ce sont des lettres pleines d'espérance. Il y a tellement de gens qui aiment Riaumont que j'en suis vraiment surpris. Des gens qui sont très loin, qui sont d'ailleurs venus après cette émission à mes deux conférences pour me connaître, pour me rencontrer. Et vraiment, je remercie aussi Jean-Baptiste Chomeil qui m'a provoqué en organisant ces deux conférences à quelques jours avant. J'étais provoqué pour parler de Riaumont. Je pense que la meilleure solution, c'est de partir un peu en campagne comme un pèlerin, comme devait faire un père de Montfort. Je me prends pas pour le père de Montfort. Je pense particulièrement à lui parce que je reviens de Cambon.
Avant que vous changiez de sujet.
Je ne change pas de sujet.
Excusez-moi. Maintenant, je vous interromps. Alors, j'interjette rapidement pour les auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, et je pense qu'il y en a des centaines et des milliers, que Riaumont dont vous parlez, ils ne peuvent pas deviner ce que c'est. C'est un orphelinat qui est dans le nord de la France, que vous dirigez, Père Argouarche, et qui est un orphelinat catholique, naturellement, qui vit essentiellement donc de telles contributions.
Alors, nous n'avons pas que des orphelins. C'est vrai que l'orphelinat d'autrefois, c'était excellent. Nous avons un foyer d'enfants avec des enfants qui ne sont pas orphelins, mais qui ont été abandonnés par leurs parents. Et puis nous avons un énorme groupe scout, puisque nous sommes 500, et puis une paroisse qui est très importante, puisque nous sommes obligés de construire une église actuellement. On reçoit des lettres de gens qui disent « Mais comment ça se fait que vous construisez une église ? Les églises sont vides autour de chez vous. Alors pourquoi vous demandez de l'argent ? Vous n'avez pas d'argent. Pourquoi est-ce que vous construisez une église ?»
Très bonne question.
Je ne réponds pas. Absolument pas. Alors autrement, je reviens...
Pourquoi vous construisez une église ? Bonne question.
Je reviens justement d'un terrain qui a été habité spirituellement par le père de Montfort. Et donc tout le terrain qui se trouve autour de Pontchâteau, ce fameux calvaire qui a été fait par le père de Montfort, c'est une réponse à l'islamisation de la France. J'ai dit une messe d'abord pour les zouaves pontificaux, parce qu'il y a un petit village qui a donné 28 zouaves pontificaux pour la défense de Pie IX. Et je me suis aperçu que ces contrées qui sont toutes petites autour du calvaire de Pontchâteau ont donné 400 prêtres juste avant la Révolution française. Et c'est extraordinaire de voir les traces des missions du père de Foucault. Et si en France actuellement...
Non, du père de Montfort.
Du père de Foucault aussi. Parce que c'est pas la même époque, mais ça fait rien. Tous ces prêtres, tous ces saints qui sont là, si on faisait appel à eux un peu plus souvent, effectivement, il y aurait sûrement de meilleurs chrétiens en France. Et puis de meilleurs chrétiens, c'est repousser l'islam. Voilà, je remercie donc tous ceux qui ont écrit à Riaumont. Il faut continuer à nous soutenir. J'avais parlé avec Serge du club des 3000. Si on arrivait à faire un club des 3000, c'est-à-dire des gens qui donneraient 10 euros par mois, ça fait 70 francs seulement, 10 euros par mois.
Par prélèvement
automatique, pardon. Eh bien, c'est vrai qu'on s'en tirerait. Et il y aurait une sorte
si
de...
vous avez... 3000 personnes qui font prélever sur leur compte tous les mois et verser au compte dont vous allez tout à l'heure nous donner les coordonnées, parce qu'il faut le faire, 10 euros, c'est pas grand-chose, hein. Vous avez un fonds de...
On a un fonds de roulement, mettons...
Et donc vous pouvez faire des folies en construisant des églises et des choses aussi aberrantes que ça.
Pour les églises, il y a un grand bienfaiteur qui s'occupe de l'église. Alors que les gens se rassurent, il faut donner pour Notre-Dame de Riaumont, il y a un grand bienfaiteur qui s'occupe de l'église. De même pour le village breton.
Ce qui est fabuleux quand même, c'est que quand vous parlez de ça, on a l'impression que les gens écrivent en disant « Mais pourquoi passez-vous votre temps dans les restaurants chics de la région ?»
Voilà, bien sûr, mais comme je suis avec vous...
Des prêtres qui font construire l'église, c'est invraisemblable, vous comprenez, mais de quoi ils se mêlent, hein ? C'est ça le
choix. Oui, enfin bref, c'est vrai que on est fiers de construire une église au moment où on construit tellement et tellement de mosquées. On est très très fiers.
Et le village breton, alors?
Alors, village breton, ça marche bien. Je viens de voir le nouveau toit. Donc, on est en train de sauver ce village. Les gens sont un peu époustouflés de voir qu'on a commencé déjà à faire de très grosses réparations et à remonter les pierres. Là aussi, c'est rebâtir un village de chrétienté.
Là aussi, il y a un site internet fabuleux. Je l'ai fait visiter l'autre jour à un ami qui était à la maison.
Alors,
il était abasourdi.
Il y a 200 visites par jour pour le site, ce qui fait que le site est quand même très très regardé.
C'est riomont.com dont vous parlez?
Riomont à @riomont.net.
Non, déjà c'est l'adresse.
C'est une adresse.
Il n'y connaît rien, mais
avant. Non, parce que je viens d'avoir un email il y a 4 jours. Mais je ne vais pas le donner parce que je vais être assailli. Il faut d'abord que je sache m'en servir.
Alors faites attention parce que vous venez de donner l'adresse de votre email.
Ah non, mais
votre site, lis ça dans le Libre Journal.
Moi, ça commence par P, point, je ne dis pas le reste.
C'est riomont, riaumont.com.
Voilà. Et tout le monde rit depuis un an quand j'ai dit que je voulais avoir ça. D'abord, on me l'a pas donné, on m'a privé pendant un an de cet engin, parce que tout le monde s'est dit le père Aguirre.
Qui a privé, c'est le frère Miller,
tout l'environnement.
Tout le gang.
Ah oui, non, mais tout le monde riait.
Ils sont incroyables.
Il faut
dire que c'est assez drôle.
Quand j'ai dit que c'est entendre qu'on rit au mont. Serge, vous m'avez dit de faire des mots.
Moi, je ris au lait.
Et d'apporter mon almanach Vermo.
Ça vient de.
Je m'exécute.
En fait, ça vient de Réolmont, le mont d'or. Voilà. Alors, on espère qu'on trouvera peut-être.
Le Mont Royal.
L'adresse, village d'enfants de Riomont, RIAUMONT, BP28, 62801, Liévin, LIEVN.
Il se moque de vous.
CEDEX.
Bon, revenons à cette histoire des 3000, le club des 3000, parce que c'est important ça. Donc, 3000 personnes qui font prélever, qui vous font un. Comment on appelle ça?
Un prélèvement automatique de 10 euros.
De 10 euros par mois.
Par mois, ça fait 70 francs.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a. Comment est-ce qu'on peut avoir le numéro du compte auquel il faut verser ces sous-là?
Il faut écrire. L'idéal, c'est de s'abonner à Cidale de l'Espérance. Il y a toute la marche à suivre dans les numéros. Histoire. Il faut écrire tout simplement à Riomont. Et puis, on donne la façon de.
Bon.
Marcher. On envoie un but. On envoie un. Un truc
une
tout fait.
Autorisation de prélèvement.
Il n'y a plus qu'à remplir. Hein, on envoie ça tout fait.
Ah voilà, donc si on écrit à Riomont, à l'adresse que vous venez d'indiquer, par retour, on reçoit le formulaire.
Exactement.
Mais que ne le disiez-vous?
Mais oui, mais j'ai beaucoup roulé et je suis un peu fatigué, Serge.
Mais je vous trouve magnifique, vous allez en pleine forme.
Oui, c'est vrai que le bon Dieu me pousse en ce moment un peu aux épaules, parce qu'il faut aller plus loin et surtout défendre ce village. Bon, vous savez qu'on a perdu contre Charlie Hebdo notre procès en appel. Mais c'était...
Moi, ça m'étonne même plus.
Oui, parce que je ne suis pas juif ou musulman, Serge, vous le savez très bien.
Il n'y a pas
comment
que ça,
j'aurais gagné.
Moi, j'aurais fait un procès parce qu'ils avaient insulté mon père. Mais vraiment, mon pauvre père qui est mort en 54, il trouve le moyen de l'insulter en traitant de gueule de vache. Bon. Et donc, j'ai fait un procès. Bon, je défends la mémoire de mon père, c'est tout. Et non seulement j'ai été débouté, mais en plus, j'ai été condamné. C'est incroyable, cette histoire. Et le tribunal a dit que je n'avais pas à faire un procès parce que mon père était mort, ça ne me regardait pas. Voilà. C'est prodigieux. Il n'y a qu'en France qu'on a des trucs comme ça. Hein. Enfin bref, donc.
Enfin, nous on a été quand même accusé par un journal pratiquement d'avoir pendu ce pauvre enfant qui est mort pour des questions familiales. Je le redis, Serge, parce que les gens disent c'est du passé, mais dans les bars autour de chez nous, etc., c'est ce qui se dit.
Oui, mais enfin, quand ils sortent, ils ont oublié ce qu'ils ont entendu. Les gars, ils sont tellement bourrés.
Bon, en tout cas, moi je pense qu'il faut pas se laisser faire, effectivement.
Est-ce que vous êtes condamné aux dépens parce que c'est grave pour vous?
Je ne sais pas, sans doute. Pour l'instant, non. Je pense qu'il faut qu'ils nous.
Bon, bref, en tout cas, on a donné l'adresse, on a dit la marche à suivre. Si vous voulez recevoir le document qui vous permet de faire un prélèvement automatique, vous écrivez à Riomont, boîte postale.
C'est pour soutenir
28 62 801 Liévin CEDEX.
En précisant, c'est pour soutenir.
C'est pour soutenir l'œuvre d'enfant de Riomont, mais toutes les activités de l'Institut Sainte-Croix de Riomont.
Voilà, il reste 2 minutes à Victoria pour nous dire toute la vérité sur Jean-Baptiste Chaumeil et Jacques Arnoul.
Oui, alors Jean-Baptiste Chaumeil et Jacques Arnoul viennent de créer le comité des amis du lundi de Pentecôte.
C'est le CALP.
Siège social 21 rue Campagne Première dans le 14e.
Tu n'as pas oublié quelque chose.
Il lance un appel à tous les amis pour qu'ils rejoignent les Rosaires pour la vie réunis à Notre-Dame samedi prochain, 1er novembre, jour de la Toussaint. D'autres manifestations sont prévues.
les 6 et 9 novembre, mais enfin on vous en reparlera, ce sera une marche de Notre-Dame au Palais Bourbon.
Alors en tout cas, le comité des amis du lundi de Pentecôte, vous avez compris de quoi il s'agit, l'adresse est 21 rue Campagne Première, c'est le restaurant La Mer Agitée, où je le signale, si Dieu veut, dans 15 jours, nous ferons un dîner avec les auditeurs qui voudront nous rejoindre et les invités qui voudront venir, pour renouer avec une tradition qui était en cours depuis...
5 secondes Serge, pour rappeler aux auditeurs qui écoutaient la radio, qui regardaient la télé aujourd'hui, la façon extraordinaire dont toute la journée, le gouvernement a dit le lundi de Pentecôte va être supprimé, non, c'est une fuite, non, il va être établi, non, on s'est trompé. Toute la journée, ils ont défilé sur les médias. Tout ça pour un jour de congé religieux. C'est quand même extraordinaire.
On se croirait pas dans un pays laïque. Le docteur Willem écrit dans la revue Santé Pratique. Voilà. Non, non, c'est tout, voilà. C'est tout ce que je veux. Ça y est, on a fini. Incroyable. On termine en avance. C'est la première fois que ça arrive depuis 16 ans. Je vais en profiter pour remercier. Donc,
un bon mot, peut-être ?
Non, je vais en profiter pour remercier les personnes présentes. Merci, monsieur Lagartante, d'être venu nous présenter votre livre qui s'appelle Le petit guide du Coran, qui est paru chez Concept et que vous signerez demain chez Duquesne. Merci, Jean-Paul Leperlier, d'être venu nous présenter l'affaire Beljanski et les trois livres qui en parlent. C'est-à-dire le livre de Pierre Lanz, Savon maudit, chercheur exclu, le livre de Sophie Charvet,
Enquête sur un survivant illégal,
et le livre de Monique Beljanski, Chronique d'une fatwa scientifique. Merci mon père, merci Jean-Paul, merci Patrick Goffman, merci chers auditeurs. À dans 15 jours, que Dieu nous garde.
Ici, Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lebekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 30, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal...